Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Far Cry New Dawn, on va parler de Devil May Cry 5, deux fois Cry, tiens.
C'est vrai.
À un moment, il n'y avait pas Blood dans tous les jeux.
C'est vrai, ça.
War.
Incroyable.
Maintenant, c'est Cry. Non, c'est, enfin, bon, en fait, il y a deux licences, c'est pas grave.
C'est vrai.
Et on va finir par Baba Is You. Et puis, le reste du programme, vous connaissez avec le Comdécom, la chronique jeu de société de Jeremy Kletskin. Et puis, je commence en accueillant donc deux de mes chroniqueurs favoris, hein, Patrick Elio. Bonjour, Patrick.
Bonjour, Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin des Croissants. Bonjour, Corentin.
Bonsoir, Paris.
Alors, après. La règle, parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, hein, mais à partir de mon moment, à quel moment on rentre dans la catégorie des chroniqueurs favoris, peut-être c'est deux, peut-être c'est trois. Bah non, là on va dire que ça va être trois, hein, donc ce sera la prochaine fois, parce que nous avons le grand plaisir à quoi ? Deux épisodes d'écart,
c'est
un truc de dingue, de retrouver Kevin Sicurel, alias Moguri, du Cozy Corner.
Exactement.
Bonjour Kevin.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation encore une fois.
Tu t'es fait escroquer à moi ce bout de deux fois, je tiens juste à préciser.
Non mais j'apprécie, c'est un défi que je saurais relever, j'espère.
Tu t'es fait avoir.
T'as pas
signé le bon cluf.
Je m'attendais pas à ça de ta part, Corentin.
Ah, non, franchement. Déjà, toujours.
Tu vois, là je regrette maintenant.
Pour les dagues dans le dos, moi, toujours.
On va commencer avec qui ? Avec toi, Corentin,
yes.
Avec des nouvelles de Monsieur PlayerUnknown.
Oui, bah Brendan Green, tu connais bien, toi, Erwan, ouais. Tu avais écrit pas mal sur le monsieur, qui en a marre des Battle Royale, parce que c'est vrai qu'il fait un peu que ça depuis 5 ans. Hein. Alors, c'était quoi ? C'était un mode pour Arma,
ouais.
Ensuite, il était passé sur H1Z1,
ouais.
Et puis ensuite, bah voilà, PUBG, le succès qu'on lui connaît, donc ouais. Où il était grosso modo à temps plein sur PUBG. Et là, le monsieur a annoncé, j'en ai marre, d'une part de bouffer coréen et de deuxième part de travailler sur du Battle Royale. Donc j'ouvre ma division à Amsterdam. Je reste dans la même boîte, mais j'ouvre.
Ça s'appelle comment la boîte
J'ai oublié. Ben, c'est Blue Hole le studio.
Oui, voilà, c'est
mais
Blue
je crois Hall. Que le nom de la division s'appelle PUBG Research and Game Dev, je crois. Je sais plus exactement.
Ouais, parce qu'en fait, c'est là où Tencent a mis du pognon, je crois. Ils ont racheté des parts de la partie PUBG
oui.
De Blue Hole.
C'est pas impossible.
Il doit y avoir une
ça
sorte
fait quoi,
de.
Ça fait PUBG RD.
Ouais, non, mais c'est sûrement pas le nom. Sincèrement, ouais. C'est sûrement pas le bon.
Un truc, là.
En tout cas, il a laissé PUBG à l'équipe coréenne qui continue à s'en occuper. PUBG continue, on va dire, de moins marcher qu'avant, mais quand même marcher sur PC et exploser de succès en termes de mobile en Chine notamment,
ouais.
Où c'est
ouais.
Un véritable succès. Je crois que c'est techniquement le jeu le plus joué à l'heure actuelle. C'est le BR le plus joué, tellement les Chinois jouent à la version mobile. Et voilà, on va voir ce qu'il va faire. Il a dit qu'il souhaitait quand même continuer dans les expériences multijoueurs. Donc, on va pas falloir s'attendre à un jeu solo intimiste Walking Simulator, hein, très clairement. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir s'il est capable de changer de genre.
Remember PlayerUnknown. Vous arrivez sur une île et il faut chercher le dernier survivant. Il y a eu une guerre, ils étaient 100, il en reste qu'un. Il faut retrouver et il a laissé des traces dans une grotte d'abord. Il faut aller écouter le son de la mer. Non, ce serait bien, Walking Sim, ouais. Brendan Green.
C'est un mec avec un casque T3. En fait, on se rend compte qu'il s'est fait tuer par un lama. Enfin, une sorte de Fortnite qui a tué PUBG. Bref, c'est un truc incroyable, un truc très personnel.
Il s'est passé un Battle Royale.
Exactement.
Sur ah ouais, non, ce serait bien.
Il va raconter la guerre des BR dans un BR, ça va être incroyable. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Il va falloir un petit peu de temps quand même pour qu'un projet se mette en place, je pense. Et puis, alors, on a eu des nouvelles.
Une bande-annonce.
On a eu des nouvelles de Shenmue 3 et j'ai envie de vous dire, c'est toujours un moment assez magique. D'ailleurs, ça tombe bien, c'était pendant le Magic à Monaco, transition valse démo. Du coup, c'était assez. C'est toujours intéressant de regarder ces trailers pour plein de raisons. Déjà, pour se rendre compte du gap graphique qui n'a pas été franchi hein, par Shenmue finalement, puisque donc le jeu, on va être honnête, le jeu a une meilleure gueule qu'avant quand même, mais c'est pas encore ça hein, les gars, c'est pas du tout encore ça. Donc là ça montre des moments un peu toujours assez narratif. Donc Rio, qui doit apprendre un coup spécial de la part d'un grand maître qui boit trop dans le fin fond du Japon ou de la Chine, je sais plus, c'est le Japon, je crois. Du Japon, voilà, un peu campagnard, enfin en pleine campagne. Il y a des phases de combat, ce n'est pas possible, clairement, ce n'est pas possible.
Mais est-ce qu'on attend Shenmue pour ça? C'est aussi la question. Non, mais on parle des graphismes et de la réelle. Est-ce que c'est ça qu'on attend de Shenmue? Je ne suis pas sûr. Moi, la vraie question, c'est est-ce que ça n'aurait pas dû rester un fantasme, ce Shenmue 3? Et ça, on aura la réponse quand il va arriver. Est-ce que ce n'était pas un de ces jeux qui aurait dû rester? Comment ?
Non, je pense qu'on a déjà un peu cette réponse.
Mais voilà, c'est quand on rentre dans le concret, c'est vrai, comme tu dis, là, on commence à avoir des images vraiment du vif, quoi, de la matérialisation de ce fantasme. Bah, finalement, c'est peut-être pas de bonne. On va voir, on jugera sur pièce.
Moi, je reste open.
Mais
les graphes, j'ai envie de dire, on s'en cogne. C'est l'histoire qu'on a envie de voir se développer.
Alors, l'histoire. C'est un point très important du premier, quand même, les graphismes. Est-ce que ça a apporté
c'était une claque.
Oui, bien sûr.
C'était une claque technique.
Mais ça faisait partie de l'expérience Shenmue, quoi, je veux dire.
Et surtout, le game design, l'ouverture, le côté.
Et puis, il faut un peu de kung-fu. Il faut un peu de kung-fu. Enfin, tu vois,
et la fléchette, du tir à fléchette.
Moi, c'est peut-être le truc qui m'a un peu le plus gêné, c'est l'aspect combat, là.
Il est mauvais.
C'était un peu triste.
C'est clairement le pire aspect de ce trailer.
C'est-à-dire que ce soit qu'on ait vu du gameplay ou des cinématiques de combat, dans les deux cas, c'était terrible. Ça ne va dans aucun des deux cas.
Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on voit aujourd'hui quand même des... maintenant, l'industrie indé, entre guillemets, est clairement passé côté 3D. Hein. On a eu pendant très longtemps une industrie indé très pixel parce que c'est logique. Et aujourd'hui, on a quand même des titres indés qui tabassent en 3D, et pas qu'un peu, et pas depuis seulement un an, hein, depuis quelques années déjà. Et là, donc ça veut dire qu'avec les outils d'aujourd'hui, que ce soit Unity, Unreal et tout ça, il est possible de créer des choses graphiquement convaincantes.
Moi, mon diagnostic, c'est que l'équipe qui s'occupe à l'heure actuelle de Shenmue 3 est calquée sur d'anciennes façons de travailler, alors que ces indés-là qui font des jeux 3D aujourd'hui sont dans l'économie des faits, ou en tout cas vont trouver des astuces pour pas avoir à animer tout un combat, par exemple.
Ils bossent sur Dreamcast, quoi.
Oui, voilà. Du coup, je pense que là, on a juste une équipe qui n'est pas adaptée par rapport aux moyens qu'elle a pour faire le jeu qu'ils ambitionnent. Et du coup, on se retrouve avec un truc un peu mal cuit qui fait un peu mal
cru,
aux yeux. Quoi.
Un peu cru.
Des moulets tièdes, comme dirait Jérémy.
Alors, Corentin, donc, on va terminer là-dessus parce que je vois.
Le conducteur.
Je commence déjà à flipper à 6 minutes d'émission.
Je fais très rapidement. J'avais parlé de Detective Frog 1 une fois, un jeu d'une heure, ça coûte 3 €, ça raconte l'histoire de Détective Frog parce qu'en fait il fallait le meilleur détective pour s'occuper de l'affaire de l'île hantée, mais comme Détective Omar était pris, on a demandé à Détective Frog de s'en occuper. Du coup il revient pour une deuxième affaire et du coup je suis très content parce que c'était une blague à la base qu'il y ait un deuxième épisode. Finalement ils vont ressortir. Écoute, si Grace Bruxner, qui est donc la développeuse de ces petites aventures en 3D, continue à faire comme ça des petites aventures d'une heure qui coûtent 3 €, moi je suis abonné, je m'abonne très clairement. J'adore l'humour complètement débile, ça a l'air cool. Ça s'appelle Detective Frog 2, The Case of the Invisible Wizard, et ça sortira cette année.
On est à la limite du Patreon, quoi. Enfin,
Moi, je trouve le concept super. Enfin, tu sors un jeu tous les 6 mois, et ça coûte rien, et ça dure rien, et voilà. Enfin,
ouais, c'est trop bien.
J'aime beaucoup.
Patrick, grosse annonce, grosse nomination à quelques jours, à quelques heures du début de la Game Dev...
La GDC, San Francisco, et des annonces attendues autour de Google.
Parce qu'on savait que Google allait tenir une keynote
la semaine dernière, on avait parlé de ces annonces qui allaient arriver. Il y a déjà du teasing, il y a même eu une fausse manette qui s'est baladée sur les réseaux il y a quelques jours, qui a un peu fait flipper tout le monde. Bon, a priori, c'est pas ça.
En fait, c'est comme d'habitude, c'est le brevet des manettes qui est envoyé pour le brevet, mais c'est juste une vision. Enfin, c'est pas obligatoirement ce qui va sortir.
Vision d'horreur, d'ailleurs.
Il y a forcément, il y a toujours un artiste qui arrive qui va faire une version crédible du truc, et tout le monde et toute la presse va le reprendre sans se poser de questions. Et c'est exactement ce qui s'était passé pour la Switch à l'époque, où il y avait cette Switch dégueulasse là, un peu arrondie en ovale.
Oui, je me rappelle qu'il y avait fait, il y avait eu du fake, c'est ça? Non,
c'est pas du fake, c'est toujours pareil. On dépose le brevet pour le concept, donc on donne un schéma, et ce schéma, ensuite il y a un artiste qui va arriver, regardez, c'est la Switch, et tout le monde reprend.
En tout cas, alors on parle beaucoup de Google, on sait que dans les jours qui viennent, des annonces vont être faites, certainement d'un service de jeu en ligne, peut-être du hardware, on parle beaucoup aussi de machines hardware, j'y croyais pas forcément quand on en avait parlé il y a quelques jours, mais priori, ça pourrait être du hard aussi qu'on mettrait sous la télé, donc une console à part entière connectée. Donc voilà, donc Google arrive en force, ça va être confirmé dans les heures qui viennent. Et puis, il y a aussi des nominations. Hein. Il y a un vrai mercato en ce moment qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est aussi un de ces phénomènes qui prouve qu'en coulisses, ça s'active énormément ces temps-ci. Dernière personne en date dont on vient d'apprendre qu'elle rejoint Google, c'est Jed Raymond, qui est une des figures de l'industrie. On l'a connue notamment chez Ubisoft Canada lorsqu'elle était, elle a beaucoup travaillé sur les Assassin's Creed dans mon souvenir. Elle est passée chez Electronic Arts.
Non, alors elle a quand même chez Ubisoft, donc elle s'est occupée d'Assassin's Creed. Après, elle a dirigé Ubisoft Québec.
Oui, c'est ça.
Elle a permis le développement. Alors, je sais pas si c'est elle qui a créé, mais en tout cas, elle a permis le développement d'Ubisoft Québec, qui s'est quand même imposé. Pas mal ces dernières années.
Et puis elle est partie chez EA après.
Avant d'être transférée chez EA.
Donc un CV quand même assez impressionnant. Donc elle rejoint donc Google, a priori, dans un titre qui est encore un petit peu vaporeux, VP, donc vice-président. Je pense qu'on en saura plus lors de la conférence de Google.
En gros, c'est la directrice de la division
jeux, a priori, qui n'a pas de nom encore pour l'instant. Tout ça va être dévoilé. Donc elle va avoir une place très importante dans cette division jeux vidéo. On sait qu'il y a d'autres personnalités. Il y a Phil Harrison, notamment, qui y est, un ancien de Sony, qui est passé aussi chez Microsoft, je crois. Enfin, on voit qu'il y a des pontes de l'industrie qui sont en train de rallier Google, et ça prouve aussi, enfin voilà, Google arrive avec un chéquier et puis des envies de rallier des gens qui ont de la patine, de la bouteille dans l'industrie. C'est-à-dire que c'est pas un newbie Google quand il arrive dans le jeu vidéo.
Non. Et d'ailleurs, dans leur conférence là qui arrive, il y a quelques éditeurs qui commencent à se manifester. Il y a genre Bethesda qui fait coucou, on aura un Doom à montrer.
Me parle pas de Doom.
Il y a Ubisoft, ça te fait une transition formidable. Il y a Ubisoft aussi qui fait coucou, on est présent aussi. Donc apparemment, il y aura. Enfin, ce ne sera pas juste pour montrer, regardez, les technologies de stream, a priori, il y aura aussi du contenu.
Bien sûr, ça va être la guerre du contenu, on en parle toutes les semaines, ça va être la guerre des plateformes et des contenus, plus que d'un hardware à droite ou à gauche, ou une console Google, est-ce que c'est important ? Non, finalement, ça va être la force des exclusivités, des titres, et des gens comme Jed Raymond vont être importants pour ça aussi, parce qu'ils ont leur carnet d'adresses, leurs connaissances, les studios, comme tu disais, Erwan, qui ont contribué à monter en puissance. Ces gens-là peuvent rallier beaucoup, beaucoup de gens à Google. Et puis, voilà.
Attends, imagine Reggie Fils-Aimé qui arrive là chez Google.
Ah, t'imagines.
Le mec, il a menti. Non, je ne me retire pas, je vais chez Google.
Sort une console portable de sa poche, ce serait énorme. En tout cas, voilà, on sait que ça va beaucoup bouger dans les jours qui viennent. Alors, tu me parlais de Doom. Alors, Doom. Bah, il faut qu'on en parle.
Pas longtemps.
Rapidement, il y avait eu quelques indiscrétions, quelques images qui avaient fuité il y a déjà quelques temps. Je vous en ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus. Là, il y a eu un trailer de Doom Annihilation. C'est le prochain film produit par Universal qui va sortir a priori en fin d'année 2019. Ce sera un direct ou vidéo. Le trailer est vraiment, vraiment pas bon. On a l'impression que les mecs ont repris un petit peu tous les assets qui restaient du film de 2005, qui était déjà pas non plus un chef-d'œuvre. Hein,
avec Dwayne Johnson.
Il était vraiment difficile.
Sauf The Rock.
Mais même The Rock.
Tu dis pas du mal de The Rock.
En 2005, je suis désolé.
C'était pas une bonne adaptation, parce qu'en plus, ça allait contre tout l'ADN de Doom, hein, quand même, ce film. On va pas revenir là-dessus une heure, mais il y avait pas l'ADN de tout le lore de Doom était un petit peu chamboulé par ce film. Voilà, les premières images donc, de Annihilation font vraiment peur, ça fait vraiment cheap. Et d'ailleurs, moi j'avais vu un tweet du compte Doom officiel de Bethesda qui disait « Nous ne sommes pas liés, nous ne sommes pas investis sur le film ». Voilà, tout de suite...
Ça, c'est des droits d'adaptation qui traînent.
Ça calme.
Que Bethesda n'a pas réussi à récupérer.
Écoute, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais moi j'ai vraiment du mal à y croire. Et moi j'espère toujours, quand j'ai une annonce de film, d'un jeu que j'adore, d'une série que j'adore, j'y crois toujours. Et là, ça a l'air compromis, on en reparlera à la sortie du film en direct ou vidéo. On ira dans les bacs à soldes de voir ce que ça donne.
J'espère qu'il sera sur l'affiche la citation « Nous ne sommes pas finis à ce film » parmi les bonnes critiques.
C'est assez étrange. Et là, je termine sur...
Cela dit, moi, ça me donne envie d'aller le voir. C'est le cas.
Je termine sur la rumeur de ces derniers jours. C'est une rumeur, attention, c'est pas du tout fondé, mais je pense qu'il faut en parler quand même. C'est la rumeur qui fait parler depuis 24 heures. Ça serait éventuellement la possibilité d'un rachat du groupe Take-Two par Sony. C'est le fil qui fait parler depuis deux jours.
Je pense qu'à chaque rumeur, il faut assigner un pourcentage de crédibilité.
Carrément.
C'est une sorte de méthode probabiliste comme ça où on va à la rumeur.
C'est pas marrant. Là, tu rentres dans du scientifico chiffré. Là, je pense
non,
qu'il faut.
Non, non,
Il faut se laisser parler.
Avec ce type de probabilité, il faut être plutôt dans une estimation logarithmique. Hein, c'est-à-dire, soit du 10-1, 10-2, 10-3, 10-4.
Sans entrer dans des chiffres, parce que ce qui est sûr, c'est que depuis longtemps, on sait que Rockstar et Sony, il y a un rapprochement qui est là depuis longtemps. Enfin, on sait que les GTA étaient là avant tout sur PlayStation 2. Enfin, ils ont été propulsés par Sony, souvent en exclu temporaire. Il y a une filiation entre les deux depuis un moment. Et puis, on parlait de Google qui arrive, on parle de Microsoft, Nintendo qui sont très copains en ce moment. On en avait parlé aussi il y a quelques
Microsoft
temps.
Microsoft va racheter Nintendo, oh mon Dieu.
Non mais je pense que Sony a tendance un peu à être isolé ces temps-ci, vu les perspectives sur la prochaine génération de consoles qui arrivent. Ce genre de deal serait important pour eux. Maintenant,
je suis désolé, c'est.
Je vois pas l'intérêt économique de le faire.
Énorme. Mais Rockstar, surtout pour Rockstar, il rachète Sony quoi.
Surtout pour Take Two.
Je vois pas l'intérêt économique de le faire pour. Ils gagnent de l'argent.
Ah, pour Sony, si. Ah bah pour Sony, pour ça Sony... leur ferait hein, une. S'ils avaient GTA en exclu sur leur console, t'achèterais limite une GTA PlayStation.
Non mais je sais bien, mais
pour jouer à GTA.
Ce genre de rapprochement, ça se fait de manière bilatérale, et ou alors tu fais une OPA, mais dans ce cas-là, tu le vois venir. Et il faut que des actions sécurisées soient sur le marché.
Il faut sécuriser, parce que Take Two, si t'as Rockstar qui s'en va, enfin, il faut faire attention aussi à ce que tu
achètes. Ouais, mais là, mais enfin, après, ça me paraît très peu probable. Je suis assez d'accord avec Armin.
Oui, mais après, on va vers une bataille des exclusivités qui est claire et nette. C'est ce qui va se profiler sur la prochaine génération. Donc, ça pourrait vraiment être un argument pour Sony.
Sceptique,
à mon avis, qui va jouer aussi sur ce côté, on en parlait, sur ce côté rétrocompatibilité de tout, avec, a priori, de la PS5 avec les anciennes. Ce côté, justement, gamer à 100% pour lutter contre les services concurrents, et je vois qu'il faut que je coupe la parole.
Kevin.
Non, c'est très peu probable, effectivement, mais je ne sais plus qui disait ça sur Twitter. Je me demande si c'était pas un analyste comme Oscar Le Maire ou quelqu'un comme ça qui disait, je suis assez d'accord avec ça, j'espère que je ne me trompe pas de personne, mais qui disait, c'est très peu ça paraît peu probable, mais Take-Two reste parmi les éditeurs, le candidat le plus probable pour ce genre d'achat de la part de Sony. Ce en quoi je suis assez d'accord. Take-Two aurait plus d'intérêt là-dedans que Ubisoft et tout ça. Et je trouve ça assez vrai, même si, encore une fois, on parle d'une rumeur qui
reste très... Non, mais qui est symptomatique de l'époque. Ouais. Elles sont aussi intéressantes, ces rumeurs, même si elles ne se font jamais. Elles sont symptomatiques de cette époque de crispation, hein, d'annonces qui, à mon avis, vont tomber autour de l'E3 ou autre. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses et bah, c'est fascinant, même si on n'a que des miettes comme ça qui sortent.
La source viendrait d'un mail échangé dans un groupe un peu d'analyse comme ça et de genre de pasteurs en groupe comme ça.
Ouais, et puis la bourse réagit tout de suite, ça s'en va très vite, donc c'est pas anodin.
C'était genre un mail dans Flyradar Info Service. bref, le com des coms de la semaine dernière, avec donc un jeu dont on n'a pas vraiment parlé, mais un petit peu quand même la semaine dernière, parce que vu qu'on n'en parlera peut-être pas en termes de critique, mais c'est bien de revenir dessus. C'est donc Oyoyo qui dit « Je rebondis sur la news à propos de Tetris 99 pour évoquer le jeu ici. Suis-je le seul à qui il fait l'effet d'une drogue dure à prise immédiate ? Ça faisait des années que je n'avais pas touché à un Tetris, pensant en avoir fait le tour et bim, l'aspect compétitif et la durée réduite des parties font qu'on en relance une petite dernière dans la foulée parce que là, c'est pas possible. J'ai été trop mauvais ou parce qu'un top 10, c'est trop bon. La prochaine, je fais promis, c'est sûr. » Et là, on se rend compte qu'on vient d'y passer 3 heures en un clin d'œil, ça c'est bon, c'est la formule assez récurrente dans le jeu vidéo.
Ce jeu me fait du mal. Tetris 99 me fait vraiment du mal. Je sens que je perds de l'espérance de vie à chaque fois que je joue à ce jeu. Il est stressant, c'est incroyable. J'ai voulu avoir mon top 1 là, par rapport au concours qu'il y avait ce week-end.
T'as gagné tes 10
Oui, je l'ai eu. Alors j'ai fait top 1, j'attends le résultat du concours maintenant.
Wow.
Mais il m'a tué ce week-end. C'est stressant, Tetris 99. Après, je crois que tous les BR me font cet effet-là, mais avec Tetris 99, j'ai l'impression que c'est condensé en fait. C'est très rapide et très dense quoi, donc c'est, mais je comprends l'effet, et si du coup ça donne le boost d'adrénaline à notre auditeur là, je comprends tout à fait ce qu'il ressent.
Alors à préciser que Oyoyo dit et c'est gratuit sans achat in-apps, alors c'est pas tout à fait gratuit, c'est 18€ par an. C'est ça, 18€ par an,
c'est pour l'online. On n'a pas de serveur dédié pour Splatoon 2, mais on a Tetris, voilà. Ça m'énerve. Bref, oui, c'est pas cher en tout cas.
À signaler aussi beaucoup de retours, notamment sur Twitter, sur Ape Out. Plein de gens sont ravis de l'avoir découvert, en tout cas avec Silence on joue. Et c'est vrai que voilà, on en dira jamais assez de bien. Hein,
Toja Manor aussi, on échange.
Et quelques échanges autour de Toja Manor là, avec Corentin Lavie, qu'on salue, qui est déjà passé par Silence on joue. Reviendra-t-il ? Ah, peut-être, pourquoi pas, sait-on jamais. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour ce début d'émission. début d'émission.
C'est hein, tout.
Bon, ouais, voilà. On va évidemment commencer les jeux et on commence avec Far Cry New Dawn.
Ici, c'est la loi du plus fort. Et les plus fortes ici c'est nous. On a besoin de gens et de ressources.
Et ce groupe au nord, sinon, le Nouvel Éden.
Se lier au Nouvel Éden, c'est un pacte avec le diable.
Avec le diable. Mais oui, mais oui. Far Cry New Dawn. Alors, rappelez-vous Far Cry 5. Far Cry 5, cette virée dans l'Amérique luxuriante du Midwest, de ce côté un peu redneck, un peu trop du cul du monde. Hein. on va dire ça comme
c'est
ça.
C'est une secte.
Dans la région de Hope County, contrôlée par la secte, par un certain Joseph. Et donc, cet univers, ce monde ouvert assez incroyable, hein, assez naturel, enfin, viré dans la nature comme ça des grands espaces américains. Qui se terminait un peu abruptement. Bon, on va peut-être pas spoiler la fin, mais bon, en tout cas, le monde était un peu détruit.
un petit peu.
en spoilant la fin.
Non, mais l'existence de New Dawn est
voilà,
est un
on est un peu obligé de parler
éléments.
Du début de New Dawn, qui se passe 17 ans après les événements de Far Cry 5. Le monde, il n'y a plus rien. L'humanité, en tout cas, s'il en reste, en tout cas dans cette région, se réfugie en sous-sol, reste en sous-sol jusqu'à ce que l'air soit respirable dehors. Et la nature, pendant 17 ans, a repris ses droits.
Et quel droit, oui.
C'est-à-dire qu'on est dans un univers post-apocalyptique, mais rien à voir avec du Mad Max, avec quelque chose de désertique, avec quelque chose
métro,
de
voilà,
oui, c'est ça, avec quelque chose de gris, hein, de gris et marron, hein, qui sont un peu les couleurs de la.
C'est un peu l'inverse d'un métro au niveau des couleurs.
Complètement l'inverse. Je suis passé d'un
Far Cry New Dawn commence avec des fleurs beaucoup. Violettes qui, comme ça, colorisent l'écran. Et finalement, alors. L'intro est un peu brutale, certes, mais les premiers pas dans cet univers sont plutôt. Bah on est pas mal quoi, dans cet univers coloré.
Il y a plein de couleurs. Enfin, ouais. comme tu disais, Corentin, moi j'étais dans Métro, je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc sombre, hein, je vous parlais d'une expérience assez suffocante, assez stressante, où tu dors pas bien après ta partie de jeu, t'es pas bien, quoi, tu vas tout en noir, t'es pas forcément en forme. Ah, ça m'a fait du bien, moi, ce New Dawn avec des couleurs flashy partout. Bon, disclaimer,
le contraste t'as pas brûlé la rétine, t'es passé de Métro à New Dawn
directement. T'as vu mes yeux. Non, mais moi je suis un fan de Far Cry. Je le cache pas, hein, depuis 2004, depuis le premier jeu chez Crytek, moi je suis fasciné par cette série, par son évolution, par ce système de jeu.
De Far Cry 2 quand même que j'ai pas.
Ah, qui était dur, qui était très âpre, hein, et je l'ai relancé il y a pas très longtemps, il est très difficile, mais il est intéressant, Far Cry 2, quand tu. Bon, je vais pas vous faire toute l'historique de la saga, mais il est intéressant ce qu'il avait dans son ADN, déjà, il emmenait des choses assez expérimentales qui étaient mal dosées, hein. Il avait plein de défauts, mais il était. Vraiment surprenant en termes de concept et de système. Après, bon, bah, les ennemis qui repopaient tout le temps, enfin, il y avait des choses, la maladie, tout ça. Bon, tout ça, heureusement, c'est du passé. Moi, j'aime beaucoup cette série. Et puis, bah, le 5, moi, j'en avais reparlé il n'y a pas longtemps. Je suis tout le temps sur le 5, toujours. J'y reviens. C'est un jeu, tu vois, j'y reviens souvent. C'est-à-dire que, déjà, ce sont des jeux dans lesquels j'adore me perdre. J'adore me perdre dans un Far Cry. Alors, on dit toujours, oui, t'as la carte, t'as des points à droite, à gauche. Oui, mais quand j'y vais, bah, je m'arrête toujours parce qu'il se passe un truc avec des animaux. Ou un groupe va me tirer dessus. En fait, j'adore ce côté, comment dire, un peu chaotique de ces jeux où il se passe
bordel,
toujours de l'imprévu. Voilà, c'est toujours des vrais bacs à sable, mais dans le bon sens du terme. C'est à l'opposé total d'un métro, j'en parlais la semaine dernière, qui est beaucoup plus directif et où t'as pas forcément envie d'aller explorer parce que tu flippes tout le temps.
Là, on est dans l'open world à la Ubi. Hein,
et on est dans l'open world avec les fameuses recettes d'Ubi qu'on connaît bien. Donc moi, on me dit, bah, une suite à Far Cry 5, bah, je signe. Banco, j'y vais. En plus, on nous donne un côté... Alors post-apo, mais complètement décontracté. C'est une vision décontractée, décomplexée.
Merci, c'est exactement le mot que je cherchais.
Tu vois, du post-apo, parce que le post-apo, on en parle tout le temps. On sait que notre monde aujourd'hui, il est au bout du gouffre, au bord du gouffre. Hein, la fin du monde, elle était très fictive il y a encore 10 ans, 15 ans quand on en parlait. Aujourd'hui, mais on rigole plus trop avec ces choses-là.
On est un peu rentré dans la collapsologie.
On y va tout doucement. Non, mais je fais un peu bref de comptoir, mais c'est un peu ça. Enfin, genre, on regarde plus la thématique post-apo. Apocalyptique de la même façon aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
Alors que, oui, sauf qu'on la décrit pas forcément comme dans Far Cry. par des bombes nucléaires.
Non, c'est vrai.
C'est pas non, ouais, non, c'est plus... les oh là là.
Non, mais oui, non, je suis d'accord. Non, non, mais de toute façon, regarde, tu regardes, t'allumes Netflix aujourd'hui, la moitié des contenus, c'est du post-apo, ouais. C'est du zombie. Enfin, on est envahi de ça aujourd'hui. Et en général, comme tu disais, dans métro ou autre, c'est sombre, c'est noir et ça, c'est encore plus stressant. Eh ben là, non. Non, c'est un post-apo coloré où il fait beau. Finalement, on est presque mieux qu'avant quand il pense. Et, non, mais ça, il y a presque une note d'espoir moi, qui me dit bah, on y va, de toute façon, on y va, on n'a pas le choix. Donc autant, bah, autant se dire bah, y a une vie après, autant commencer à y
il
penser.
Il va virer survivaliste.
Mais oui, non,
ça
mais
y
c'est
y
pas.
Ça y est,
mais
non, ça mais, y est
mais
on a perdu
le jeu peut être une bonne introduction.
Il va ouvrir sa chaîne YouTube. Hein.
Ouais. Donc, non, mais moi, j'adore. Bah, évidemment, quand on connaît un peu la série, moi, j'ai vu des gros coups de cœur pour Blood Dragon. Vous vous rappelez ouais, de ce spin-off du grand Far Cry 3 qui est le Far Cry vraiment qui a propulsé la série il y a déjà quelques années avec Vaas, le méchant, tout ça. C'était vraiment le jeu étalon de la série qui a vraiment donné le là après à toute la saga qui a suivi. Et puis Blood Dragon, c'était ce délire années 80, kitschissime, qui était vraiment un bijou. Moi, je m'en suis jamais complètement remis de ce jeu.
Il y a Primal hein, quand même aussi.
Primal aussi était. En fait, ce qui est intéressant avec cette saga, c'est qu'on voit qu'elle est très malléable. Ouais. Elle est malléable parce qu'elle touche à plein de thématiques. Il y a un fil rouge, évidemment, la vue subjective avec l'expérience très immersive qu'elle ouvre. Et puis un monde ouvert, évidemment, organique, avec des systèmes qui se côtoient, qui interagissent. Mais en dehors de ça, on sent qu'elle est très malléable et qu'elle demande qu'à être. Voilà, questionner avec des thématiques des environnements. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, je crois, à ma connaissance, sur le seul épisode qui est vraiment une suite scénaristique d'un précédent, parce qu'on avait déjà eu des... Alors, je crois qu'il faudrait remonter au tout début sur les consoles. Il y avait eu des Far Cry Instinct, des choses comme ça. Je ne sais plus comment ça se plaçait par rapport au lore original, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Là, on est vraiment sur une suite. Et moi, c'est ce qui m'a plu. En dehors, on va parler après des composantes nouvelles qui apparaissent. Moi, ce qui m'a fait délirer, c'est que j'ai lu pas mal de critiques. Hein, j'ai regardé un petit peu les reviews sur le jeu. Tout le monde dit oui, ils ont repris la carte, ils l'ont skinné. Ils ont.
C'est toujours la même chose pour les épisodes entre les numérotés. C'est toujours la même carte.
Alors, elle est retouchée parfois. Enfin, je sais que Blood Dragon reprenait des choses, mais
alors,
qui étaient.
J'avais juste une remarque là-dessus. Je te redonne très vite la parole. Moi, alors, d'une part, ça me fait plaisir parce que moi, il y a un côté, notamment chez Ubi, où je me dis. Font des choses complètement incroyables en termes d'univers. Et moi, ça me rend triste qu'ils s'en resservent pas, en fait. Moi, je sais que sur pas le Rainbow Six, mais c'est quoi l'autre licence, Tom Clancy là,
Splinter Cell
Division.
Non.
Rainbow Six.
Qu'est-ce
que ça peut être
Je vois pas.
Mais avec les squads.
Ghost Recon.
Bien sûr. Il faut arrêter avec Tom Clancy, c'est relou. C'est relou, putain. Bref, avec le Ghost Recon Wildlands, j'avais été sidéré par la map, par le monde. Ouais. Le jeu m'emmerdait au plus profondément. C'était horrible. Mais j'étais triste de. Finalement, je me disais, ils auraient pu proposer un autre truc, tu vois, à partir de cet univers-là. Et donc, cette réutilisation comme ça de la map de Far Cry. Moi je trouve ça super bien. Et par ailleurs, moi je vous conseille quand même un truc parce que une des choses qui rend ça possible, je vous conseille une vidéo sur YouTube de Houdini. Houdini, c'est quoi? C'est pas le magicien, c'est
une société. Je voulais faire la même blague.
En fait, qui a été utilisé par Far Cry 5 pour construire les biomes. De la map, c'est-à-dire en fait pour définir, c'est un outil 3D en fait, mais qui est pas un outil 3D où tu poses des arbres ou tu poses des routes et des trucs comme ça. Tu crées des biomes et que tu modifies et après une intelligence artificielle vient là et va mettre la nature.
Ça c'est l'outil utilisé par Ubi.
Qui s'appelle Houdini et je vous conseille le making of entre guillemets Houdini Far Cry 5.
D'accord.
Et en fait tu comprends comment finalement ils ont pu réutiliser ça comme ça. Ils ont changé les biomes, ils ont changé le mode naturel, tout ça. Et finalement, je trouve que c'est intéressant en termes de conception d'univers, conception de jeu. Et on s'en rend compte quand on est dans Far Cry 5 et quand on est dans Far Cry New Dawn, c'est qu'il y a cette nature assez luxuriante où tu sens finalement que le petit fourré dans lequel tu marches, il a peut-être pas été mis à la main, il a peut-être poussé ici.
Il y a ce côté naturel, presque, comme la nature.
Et je trouve ça intéressant. C'est évidemment une direction dans laquelle va le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va pas mettre les assets, notamment dans les maps qui font 40 km carrés. On va pas payer des gens pour mettre les petits buissons à la main ou les petits arbres à la main. On va avoir des systèmes de biomes comme ça, de déco. écosystèmes qui vont...
une certaine logique.
Voilà, une certaine logique. Et je trouve que bah, c'est intéressant de voir le résultat dans des jeux comme Far Cry New Dawn. Je te redonne la parole.
Non, mais oui, non, pour dire, moi, j'étais ravi de me lancer dessus. Moi, j'avais plutôt peur qu'ils annoncent un Battle Royale ou un truc comme ça autour de Far Cry. Bah non, non, ils continuent sur du jeu open world. Alors, moi, j'étais plutôt ravi, en plus, d'avoir cette suite quand même. Je trouve ça malin, quand même, de finir le 5. Moi, j'aimais bien le côté, on en voit tout valser. Alors, c'était plus ou moins droit, etc. On peut critiquer la façon de faire, mais là, je trouve que cette suite, en plus, le fait de rebondir là-dessus et dans l'idée est plutôt bonne. Et moi, j'ai vraiment trippé le côté, bah, évidemment, tu te lances dans une carte qui est quand même bien remaquillée hein, en termes de visuel. Oui, oui. Tu sais, c'est très coloré, c'est post-apo, donc tout est abîmé, tout est détruit. Tu as des épaves de voitures partout. On est quand même dans une ambiance Mad Max colorée, mais Mad Max quand même. Hein, c'est-à-dire qu'on est plus sur des, on est sur des restants, des ruines de la civilisation qui se sont reconstruites après, etc. Et moi, j'ai eu vraiment cette sensation de me lancer en partant sur une carte un peu inédite pour moi, c'est-à-dire que je partais à l'aventure, nouvelle aventure avec des missions que l'on enclenche, etc. Et puis j'ai eu ces moments que moi j'ai vraiment appréciés, où tiens, pendant une mission, tu te dis, mais cet endroit, je m'en rappelle, j'étais là, ouais. Je l'ai fait dans GTA 5, dans Far Cry 5, je connais cet endroit, je l'ai vu à l'époque. Et je trouve que c'est intéressant, même dans ton rapport de joueur à l'environnement, ça crée une sorte de souvenance de quelque chose que tu as vécu dans un jeu au préalable, et tu retrouves cet endroit, mais différemment. Et je trouve que ça questionne ta mémoire de joueur, de ton expérience. Moi, ça m'a rappelé des parties de l'époque que j'ai fait sur Far Cry 5 à tel endroit. Et je trouve qu'il y a ce jeu.
Nostalgie artificielle,
mais exactement. Ouais. Moi, ça m'a presque créé, une nostalgie de moment que j'ai passé à tel endroit de la carte, etc.
Ah,
et c'est assez inédit. Je crois pas avoir d'autres exemples de jeux comme ça où tu revisites. Il y en a peut-être d'autres, mais là, en tout cas,
dans les Zelda où il y a des vieilles ruines d'anciens jeux,
certainement. Mais en tout cas, là, c'est vrai que j'ai vraiment ressenti ce côté, quelque chose qui a survécu.
Autre souvenir d'un ancien Far Cry, c'est on retrouve quand même un sacré level au niveau des méchants, parce que. Alors, on se souvient du méchant de Far Cry 3. Et là, franchement, avec Mickey et Lou, les jumelles, on a quand même du très, très haut niveau. Ouais. Je les trouve incroyables. C'est donc deux jumelles qui sont les chefs des Ravageurs. Donc, la bande qui
a repris le pouvoir, voilà. En fait, qui est en train de... Moi, ça m'a fait énormément penser à The Walking Dead. Ouais. L'arc The Walking Dead, où pareil, tu as des séquences comme ça avec le grand méchant, là, j'en ai plus de son. Je pense que les équipes ont regardé The Walking Dead, même dans l'intensité, je trouve, de la mise en scène, quand ces persos viennent te parler, font des choses à d'autres personnages devant toi, tu te sens un peu mal à l'aise. Ouais. J'ai l'impression vraiment qu'ils... Même dans l'ambiance globalement du jeu, y a un côté comme ça, un peu fin du monde, ou après la fin du monde, avec qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on fait de l'après, en fait, quand il n'y a plus forcément de quel va être l'avenir après une catastrophe. Et bon, en tout cas, voilà, ça m'a fait pas mal penser à The Walking Dead, ces moments intenses, et c'est là où on les voit, notamment ces deux ennemis, les jumelles, c'est dans ces cinématiques où elles viennent nous parler.
Mais ce que j'aime beaucoup dans les jumelles, et même que je préfère par rapport aux méchants de Far Cry 3, c'est que je trouve qu'elles ont...
Le 3, parce que le 3, il était vaste.
Mais c'est que je trouve qu'elles sont pas dans le modèle psychopathe total. Ouais, ouais. C'est-à-dire, elles sont violentes, elles sont ultra violentes, elles font peur. L'apparition des jumelles dans une séquence cinématique, elle met l'ambiance assez... Mais elles sont motivées, elles ont une motivation, elles ont un but dans la vie. Mm-hmm. Elles sont pas là, genre, en mode psychopathe, je vais buter tout le monde pour buter tout le monde. Non, elles ont un but, elles ont un objectif, elles ont une motivation pour qu'elles agissent comme ça. Alors, elles agissent plutôt dans le mode... on va dire quoi, chaotique neutre, pour ceux qui connaissent les Donjons et Dragons, quoi. C'est plutôt en mode chaotique neutre, c'est-à-dire qu'elles elles ont un but, elles en ont un peu rien à foutre d'être bon, mauvais et tout ça. Elles sont pas dans le machin, donc elles sont plutôt méchantes parce qu'elles ont il faut pas être sur leur passage.
Comme Negan va chercher, c'est Negan,
mais elles sont pas psychopathes, elles sont pas totalement folles, en fait.
Mais alors, tu vois, vu de loin, j'ai pas fait moi ce New Dawn, mais en fait, ce que tu dis là, ce que tu viens de dire, c'est plus quelque chose qui me repousse en tant que consommateur éternel des mêmes histoires et des mêmes thèmes dans tous les jeux, les séries, les livres du monde. C'est que ce que j'aimais bien chez VAS, même si on connaît le côté un petit peu, hasardeux de comment ça s'est passé, l'acteur a proposé quelque chose que les développeurs n'avaient pas du tout prévu. Je préfère le côté métaphorique et allégorique d'un vase beaucoup plus résumé à sa folie, à la vase et la folie plus qu'un personnage. Ça me séduit plus que justement ces personnages auxquels on veut donner des motivations. J'ai l'impression que tu m'as décrit justement tous les Negan du monde, tous les méchants post-apo du monde de on a des motivations qu'on peut comprendre, mais des méthodes qui sont inavouables. Et c'est un travers pour moi, hein, j'insiste, c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie peu, que je retrouve dans beaucoup maintenant de Far Cry et autres chez Ubisoft, justement. On sent qu'ils ont été surpris eux-mêmes par Vaas, parce que ça a apporté, et que la solution pour la suite, leur manière d'améliorer ce personnage, ça a été de dire « Ok, on va prendre des personnages forts, des méchants forts. » Il part du principe qu'un bon jeu est caractérisé par un bon méchant, ce qui est vrai. Je trouve,
comme un James Bond.
Exactement,
c'est,
voilà, tout à fait.
C'est un peu
oui,
la même formule.
Ça, ouais. Mais il l'améliore en se disant « On va leur donner des motivations, on va les créer plus humains, etc. » Et personnellement, c'est quelque chose que je déplore un peu dans les Far Cry.
Pour moi, c'est plus, ces personnages, on les voit pas tant que ça, hein, tu sais, dans la formule, ils sont là au début, ils te teasent un petit peu, ils te chauffent un peu pour que tu partes à l'aventure. Le cœur du jeu, c'est encore une fois ce chaos, c'est ce côté chaotique de l'univers où tu vas te faire ton histoire toi-même parce que tu vas explorer, etc. Avec aujourd'hui cette composante RPG qui est. Ouais. C'est ça aussi la nouveauté, hein, de ce New Dawn par rapport au 5.
Oui, c'est vrai, la prononciation.
Sinon,
on va se refaire reprendre encore.
Ah, ils sont très tatillon, enfin, je suis souvent la cible de mon
et oui, c'est ce côté RPG, le fait d'avoir un QG qu'on va optimiser, dont on va optimiser les caractéristiques, la capacité à produire, etc. Ça, c'est vraiment un des points d'entrée nouveau. Là, par exemple, quand tu es en plein fight avec une bande d'ennemis, t'as le compteur au-dessus de leur tête. Tu vois, un peu à la Destiny ou d'autres. Alors, ça reste léger. Hein, Ubi eux-mêmes parle d'un light RPG feature, donc c'est très léger, mais quand même, tu sens qu'il y a une. C'est pour ça que je pense que ce titre, il fait peut-être une passerelle avec l'avenir de Far Cry. Je pense qu'il ouvre aussi à peut-être une forme d'évolution de la prochaine génération de Far Cry. Je pense qu'il peut-être s'écrira sur la prochaine génération de consoles, on verra.
Il se renouvelle un peu.
Ça va être la question de l'avenir. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une velléité d'amener un peu plus de RPG, d'avoir une expérience qui évolue dans ce sens-là. Et je trouve ça plutôt intéressant. C'est vrai que le côté d'avoir une base, notamment au début du jeu, on te dit, voilà, il va falloir que tu la fasses évoluer, que tu augmentes ta capacité de production de véhicules, que tu puisses produire davantage de biens pour la nourriture, etc. Je trouve que c'est pas mal amené. Donc, encore une fois, je trouve que tu y rentres. Et comme tu disais, t'es bien pris au début par le jeu qui t'emmène sur ces nouveaux systèmes. Et tout ça est bien expliqué, en fait. Je trouve que ça marche plutôt bien.
Moi, je sais que j'ai eu une expérience introductive, entre guillemets, beaucoup plus agréable dans ce New Dawn. Que dans Far Cry 5, que j'avais trouvé un peu rugueux au début. Tu débarques, tu te fais agresser, tu ne savais rien, tu ne savais pas où tu étais. Alors oui, c'était bien fait, hein, je ne nie pas, mais voilà, moi, j'avais assez mal vécu l'intro de Far Cry 5. Et là, très très bien, c'est les couleurs, l'arrivée donc cette nouvelle base, et puis finalement un côté RPG survival, RPG survival qui était hyper ouvert et où on avait envie de partir à l'aventure.
Plus décontracté en fait, parce qu'on reste dans la fantasy malgré tout. Aujourd'hui, on est encore heureusement dans la fiction là sur ce monde post-apo. Ce qui fait que tu as aussi une distance que tu n'avais pas dans Far Cry 5 qui donnait presque avec le réalisme. Et c'est là où il avait été pas mal critiqué pour ne pas assez se mouiller, pour pas prendre d'angle beaucoup plus tranchant avec l'Amérique d'aujourd'hui. Et finalement, ce côté plus fiction, plus pulp, plus pop de celui-ci, avec ses couleurs flashy à la Blood Dragon, je trouve que finalement, voilà, t'as pas cette sensation de dire, ah bah tiens, ouais, mais ils ont pas passé tel ou tel message.
C'est moins l'acte manqué, quoi.
Bah, finalement, c'est du jeu, quoi. Alors, en fait, c'est ce que te dit, en fait, ce New Dawn. Ouais. T'es dans un jeu vidéo.
Et tu vas.
Si t'as un vrai méchant, t'as deux vrais méchants en face qui sont des vrais méchants, et ben voilà, tu vas rencontrer ces différents clans, etc. Et je trouve que, voilà, t'es peut-être plus. T'es plus décontracté en fait.
En tout cas, il donne envie. Enfin, moi, j'en suis au tout début, hein, enfin quelques heures, on va dire, et il donne envie de s'y jeter. Enfin, c'est en étant, c'est un Ubisoft réussi. C'est ce qui ressort. Non, mais c'est ce qui ressort. Il y a des fois, moi, après, c'est aussi totalement, comme je l'ai dit, Wildlands, ça l'a pas du tout fait pour moi. Mais je sais qu'il y a plein de joueurs qui ont adoré. Voilà, pour moi, c'est un Ubisoft où j'ai envie de me jeter, j'ai envie de découvrir comme les bons Assassin's Creed, comme.
Avec des nouvelles features, j'ai pas précisé, excuse-moi, c'est les camps qu'on libère sont repris. On peut les faire laisser. Il y a une montée de niveau. Et du coup, un peu comme on avait déjà, je crois, dans Odyssey, quand on croisait certains personnages, on disait, oh là, moi, j'ai pas le niveau, je me sauve, je suis pas au niveau pour aller me fighter avec eux. Et là, on a ça aussi.
Cette feature me fait marrer, c'est un peu genre, ouais, vous êtes nuls, mais vas-y, reprenez-le, je reviens.
Ah, mais après, tu peux tenter. Moi, hier soir, quand j'ai passé un temps fou sur une base où le niveau était trop élevé, du coup, t'en prends plein la tronche. Mais ça, c'est aussi la force de Far Cry, c'est que tu te sens toujours capable. Tu te dis, je peux y arriver en la jouant plus fine, en étant un peu plus rigoureux ou plus discret. Ou... La porte est toujours ouverte. Et c'est à toi, en tant que joueur, de te dire, je tente le coup. Là, je me prends des coups d'Erwan. En tout cas, voilà, je trouve qu'il y a plein de petites choses intéressantes qui vont. En tout cas, la suite, on verra le prochain. Peut-être qu'il faudrait faire une pause aussi, hein, parce que là, c'est vrai qu'il arrive très vite après Far Cry 5, qui en plus a eu des extensions, hein, des petits DLC narratifs très série Z qui étaient rigolos. Ils sont allés très vite. Donc, peut-être qu'il faudra laisser un peu de temps, attendre peut-être la next gen, j'en sais rien, n'importe quoi.
Mais ils font déjà une pause sur Assassin's Creed, ils vont pas faire des pauses sur toutes leurs licences.
Oui, mais bon, après.
C'est-à-dire pour créer du contenu original, moi je suis pour les pauses. Hein.
Mais bon, en même temps, voilà, moi c'est réussi, je m'éclate avec, je pense que je vais perdre encore beaucoup d'heures à explorer, à me balader, moi j'adore. Donc, et puis il y a plein d'animaux nouveaux aussi. Fin...
Parle-nous-en donc pendant une ou deux
heures. C'est le moment. Donc, Far Cry 5 sur PC, Xbox
New
One.
Dawn. New Dawn.
Oui,
New
oui,
Dawn.
New Dawn.
Enfin, le 5
PC, Xbox One et PS4. C'est le moment d'accueillir la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy.
Salut, Erwan. Alors, cette semaine, je veux vous parler d'un tout petit jeu de cartes. Son nom, Matryoshka. Ce qui veut dire poupée russe en russe, en russe, en russe, en russe. Alors vous devez vous en douter, je suis pas un super fan des comportements impulsifs d'achat de Uno, de 1000 bornes comme ça dans les gares, dans les petites librairies. Il y a tellement de petits jeux de cartes modernes, intéressants, innovants et Matryoshka est l'un d'entre eux. Le matériel est super simple, 70 cartes, 10 séries de 7 cartes de chaque couleur. Les joueurs jouent le rôle de collectionneurs d'antiquités qui essayent de rassembler des séries complètes de poupées. Les joueurs commencent avec 6 cartes dans leurs mains et peu à peu ils vont dévoiler les poupées qu'ils collectionnent en les posant sur la table. Et puis le joueur actif posera face visible une carte de sa main sur la table, tandis que tous les autres joueurs vont lui proposer face cachée une carte à l'échange. Il regardera une à une les cartes de chaque joueur et choisira celle qui l'intéresse le plus. La partie durera 4 manches pendant lesquelles on va négocier, on va faire des échanges, on va observer ce que les autres collectionnent. Et puis on va comme ça assembler un tableau avec les poupées russes comme une vitrine qui permettra de calculer le score de chaque joueur à la fin de la partie. Les lignes représentant dans le tableau les poupées d'une même couleur dans l'ordre croissant, et les colonnes donc des poupées d'une couleur différente mais de même taille. Les groupes de 2 cartes dans le tableau valent 2 points, les groupes de 3 cartes valent 4 points, etc. On pourra même aller jusqu'à 19 points pour les séries complètes de 7 cartes. Et voilà donc, Matryoshka est un jeu simple, malin. C'est vraiment le petit cadeau, l'achat facile si on est en retard et qu'on veut pas arriver les mains vides. Il y a pas mal d'interactions entre les joueurs, un peu de calcul, et puis les règles sont courtes et faciles à comprendre. Alors voyons ce qu'il y a écrit derrière la boîte. À partir de 8 ans pour des parties de moins de 20 minutes, ça se joue de 3 à 5 joueurs. L'auteur Sergio Alaba, les illustrations sont de Eduardo Berra. Moi j'ai le jeu original des Hollandais de White Goblin Games, mais il a été aussi publié en France le mois dernier par Matago. Et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux, on n'a pas besoin de se renseigner sur les habitudes de la personne avant de lui offrir un cadeau. Et puis c'est malheureux, hein, mais vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de doublon. Bye bye.
Bye bye, Jérémy. Merci pour ce Matryoshka. Donc, maintenant, gros morceau. Moi, je me rappelle, hein, DMC 2001. Ça.
Ouais.
Quelle claque, ce DMC en 2001. Il s'en est passé des choses. Et aujourd'hui, on va parler de Devil May Cry 5. All right. Time to kick some ass. Don't crap yourself. He likes to kill demon things. DMC 5, on rappelle la chronologie, DMC 2001, Devil May Cry 2 2003, Devil May Cry 3 2005, 2008. Devil May Cry 5, on a eu 4 pardon, on a eu un truc bizarre qui s'appelle DMC Devil May Cry sorti en 2013,
Ninja Theory,
voilà, mais bon, qui n'était pas forcément dans la continuité générale. Et là, la suite de Devil May Cry 4 qui sort donc 10 ans plus tard, plus de 10 ans plus tard, Devil May Cry 5. Tu n'es pas là, Kevin. tu n'es pas là
oui.
pour nous résumer l'histoire.
Ah non, oui.
Hein, que ce soit clair.
Ce serait plus simple que KH, mais ce serait un peu compliqué aussi, donc je vais m'en passer allègrement.
En gros, épée, flingue, démon.
C'est ça.
Puis voilà.
Et il y a un gros arbre qui a poussé dans la ville et qui tue tout le monde et qu'on essaie de
remédier de très très loin. On sent que c'est pas pour rien que le héros s'appelle Dante et que son frère s'appelle Virgile dans la série. Mais de très très loin. Mais c'est les ingrédients de toute la série Devil May Cry que tu viens de citer là.
Parce que moi, alors après, je vais vous laisser la parole. J'ai joué à celui-là que je trouve étonnamment bien. Je préciserai le étonnamment plus tard. Mais pour moi, vraiment, la signature de Devil May Cry, donc qui est une signature, on va dire, made by Hideki Kamiya, qui avait créé la licence, c'est ce coup d'épée qui va du bas vers le haut, qui envoie le Stremon dans les airs, le démon, le démon dans les airs, et la sortie de flingue par le touche, et on empêche le démon de redescendre en canardant, et le démon reste en l'air et finit par exploser. C'est un peu pour moi le signature move de DMC. Alors il en a tellement d'autres depuis, parce que les signature moves, c'est un peu
c'est l'histoire même. Hein. C'est le...
Mais oui, c'est vraiment le truc emblématique, le truc qui, on se rappelle, c'est limite concomitant à la sortie de la PS2, c'est quelques mois après la sortie de la PS2.
C'est quand elle décolle, quoi. Voilà, c'est quand vraiment elle décolle avec GTA.
On voit ça arriver, on se dit oh, j'ai envie de jouer à ça. Les premières images de DMC, c'est j'ai envie de faire ça avec un démon. Donc, toi, ce Devil May Cry 5, ça donne quoi, Kevin?
Pour moi, c'est, je vais essayer de faire dans la mesure. Pour moi, c'est, on est déjà sur le jeu de l'année sans aucune question possible. Malgré la sortie prochaine d'un certain Sekiro que j'attends énormément pour parler du plus proche. Mais pour moi, Devil May Cry 5 est un jeu important, est un jeu dont on ne peut de toute façon. C'est à la fois une réserve et peut-être quelque chose qui insiste encore plus sur ce que je dis, dont on ne peut pas saisir toute la mesure maintenant. Il aura fallu beaucoup de temps pour comprendre tout ce que le 4 avait pu faire en termes de jouabilité, de proposition de gameplay, etc. Le 5, voilà, c'est le retour du vrai Devil May Cry. Cette expression est peut-être un peu injurieuse envers DMC, donc Ninja Theory, mais il faut dire que malgré toutes les qualités potentielles de ce DMC Devil May Cry de 2013, tu disais, c'est ça?
Oui.
Bon, c'était pas un Devil May Cry tel qu'on a connu la série jusqu'ici. Et d'ailleurs, c'était censé être un reboot. C'est resté un reboot isolé, un petit peu bizarre.
Un one shot.
C'est ça. Là, on retrouve vraiment Devil May Cry tel qu'on l'a connu avant. Et je trouve le jeu fantastique. C'est-à-dire qu'il c'est une expression vraiment surannée, mais c'est tout ce qu'on attendait, mais encore plus, quoi. Et j'ai passé ma première partie et mes suivantes, parce que c'est un peu ça le principe d'un Devil May Cry, c'est que tu le fais une première fois et après il va s'agir de maîtriser le jeu en le refaisant de manière plus difficile et en essayant d'avoir les meilleures notes à chaque niveau, etc. J'étais surpris par la manière que le jeu a de réinventer ses systèmes, ses personnages au sein même d'une partie. Littéralement, alors c'est un spoil oui et non, mais il y a littéralement un tuto dans le dernier boss. C'est-à-dire que le dernier boss du jeu t'affiche un tuto. C'est un jeu qui n'a jamais peur de dire tu pensais connaître ce personnage, tu pensais connaître la manière dont il s'utilise, dont il se manie, en sachant déjà qu'il y a trois personnages à la base dans le jeu. Eh bien non, en fait, repense tout ça, oublie tout ce que tu as inventé, ou alors rajoute ça qui va un peu tout changer. Je trouve ça merveilleux. C'est un peu l'anti Far Cry 5 New Dawn et l'anti Houdini dont tu parlais. Tu disais qu'il y a cette tendance de jeu, de grands jeux qu'on construit un peu, dont on laisse le soin à des IA de construire un peu les mondes. Là, c'est vraiment ce jeu un peu d'orfèvre, de tout va être maîtrisé à la main.
On est sur de l'artisanat.
Voilà, exactement. Et de l'artisanat, surtout en matière de contrôle du personnage.
Vraiment, moi j'ai été très étonné. J'ai pas un rapport très amoureux, on va dire, avec Devil May Cry, notamment par mon rejet un peu viscéral du gothique, surtout dans DMC 4. Mais DMC 4, du coup, avec il y avait ce gothique un peu qui se prenait au sérieux, je trouvais, était un peu lourd. Et là, je trouve qu'en termes d'ambiance,
il dégonfle un peu ça, quoi.
En fait, il y a une une distance que prennent les personnages, que prennent la narration vis-à-vis de cet objet un peu qui reste un peu gothique hein, quand même, oui. Notamment sur le design des démons et tout ça. Mais c'est drôle, c'est amusant. Alors moi, j'ai pas ce même rapport, c'est-à-dire que je pense que quand j'aurai fini Devil May Cry 5, je ne me dirai pas ouais, super, j'ai fait le tutoriel, niveau 1, alors après, bah, on va le refaire en plus dur. Et puis niveau 2.
Il y a 6 niveaux de difficulté apparemment, même pas la peine.
Il y en a en réalité 4 réels et les 2 derniers sont des niveaux un peu de difficulté bonus. Il y a un niveau où tout meurt en un coup, les ennemis et le joueur. Il y a un autre mode où le joueur meurt en un coup. Donc c'est au-delà du niveau difficile.
Oui, mais après, au bout d'un moment, quand t'es parti pour faire des rangs en triple S partout, t'es parti pour pas te faire toucher de toute façon.
C'est
donc,
ça. C'est ça.
Ça m'étonne pas, quoi.
Mais là, il y a un rapport. Bon, déjà, alors, on va le signaler très vite parce que c'est vrai que c'est pas un truc. Mais alors, l'utilisation de ce moteur RE Engine, donc de.
Extraordinaire.
RE2, qu'on a déjà découvert dans Resident Evil 2 il y a quelques semaines.
Le 7
aussi, c'est incroyable.
Capcom a son Fox Engine, c'est incroyable. Et encore une fois,
Engine, vous allez vraiment vous faire taper par tous les. c'est terrible.
PC Engine.
Mais oui, qu'est-ce que je disais? Oui, encore une fois, ma config est légère et le jeu tourne très bien. C'est incroyable. 60 FPS, et pour ce genre de jeu-là, c'est super important. Et non, mais vraiment, c'est cool, quoi. Capcom, vous avez une gemme là avec ce.
Surtout que c'est. Pardon.
Non, vas-y.
Non, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est un moteur qui flirte, pour moi, avec les codes du photoréalisme. On l'a vu sur Resident 2, où on avait vraiment une photographie parfois simili-réaliste. On l'a eu sur le 7, on va pas revenir sur le 7, qui avait cette horreur crue, pareil, qui donnait presque
Uncanny Valley.
Uncanny de ouf.
Je trouve que c'est une des particularités de ce Devil May Cry, c'est qu'il flirte, en fait, avec ce côté, cette fantaisie, elle est très japonaise, ce look, cette ambiance très surnaturelle, comme tu disais, gothique, typiquement japonais, enfin qu'on a depuis la cathédrale qui était Devil May Cry, qui était une sorte de c'était un joyau de d'univers gothique. Il flirte avec ça et puis une forme de prosaïque. Il y a du prosaïque dans les acteurs qui sont des acteurs numérisés dans le jeu. Et je trouve qu'il flirte. Il est vraiment à la limite pour moi pendant toute la partie. Il est très agréable à jouer ce jeu. Je trouve qu'il y a une fluidité des animations. Des réactions des personnages.
Non, mais attends, juste sur les personnages, tu disais prosaïque, moi je dirais prognathes. Ils ont des mâchoires immenses. Alors, à mon avis, c'est plus lié au character design et la conjoncture avec le moteur. Mais moi, j'ai du mal à regarder les personnages dans la bouche, hein, franchement. Il y a les dents, moi j'ai du mal.
Dans la bouche.
On voit leurs dents à moitié serrées tout le temps.
Mais je trouve que justement, ce jeu, il est à la rencontre entre un univers gothique, donc surréaliste, très noir, et des acteurs numérisés où t'as du photoréalisme sur les personnages. Et je trouve que le clash est intéressant. Je trouve que cette rencontre, tu vois, je trouve que ça marche bien.
Je peux comprendre pourquoi on peut trouver que ça marche bien.
Il est assez fascinant. Et on parle pas des séquences en full motion vidéo qui sont sur la version collector.
Ça c'est très drôle.
C'est encore un autre problème. Mais je trouve qu'il est super agréable à prendre en main. C'est vraiment, on parle du graphisme, on parle de la difficulté, mais c'est la prise en main à la manette. Moi, en plus quand on prend le personnage, c'est V, c'est ça avec ses
le nouveau personnage. Oui, il est incroyable.
Alors lui, mais moi, il y a longtemps que j'ai pas massacré ma manette comme ça où tu tapes dans tous les sens, et ça reste lisible, ça reste agréable à jouer. Je trouve que il est et surtout, moi, je trouve que c'est tout bête, mais c'est quand tu cours, tu reviens en arrière, ton personnage il se retourne, il y a des animations, je trouve, d'une fluidité, et c'est ça aussi, c'est que le jeu te perd jamais, c'est-à-dire que tu vois, je trouve que quand t'es manette en main, je trouve qu'il y a un côté réactif, ultra réactif, qui fait que t'es à fond dans la partie, quoi. T'étais vraiment dans le.
Corentin, tu trépignes. Oh tu trépignes. Corentin, je te vois. Je te vois. Trépigner.
Je vais. Bon, Jean-Luc Pisseroy, je m'annonce bonjour. Mais.
Pourquoi Jean-Luc?
Je vais pas dire. Je dis Jean-Luc comme ça.
Non, mais à chaque fois, c'est valable.
Je vais pas aller dans la caricature.
C'est pas l'accent.
Ce Devil May Cry est très bien fini. Enfin, je veux dire, il y a une facture de Devil May Cry qui vraiment force le respect. Alors, déjà, sur la DA, j'aimerais juste revenir. On se balade que dans des ruines et des grottes. J'en ai eu marre vraiment très rapidement.
Et des égouts aussi, je crois.
C'est quand même super dommage quand on a un univers comme celui de Devil May Cry et qu'on nous fournit quand même pas un bestiaire si varié que ça. Ça va mieux le bestiaire, mais par contre, les décors, franchement, c'est un peu tout le temps les mêmes. Alors sur la fin, il y a un peu de variété, mais bon, j'ai quand même été gêné par cet aspect-là. La deuxième chose, moi, c'est surtout l'aspect justement prise en main. C'est vrai que je pense que j'ai été victime d'un truc en fait avec ce Devil May Cry, c'est la distance entre ce que je m'attendais en termes de maniabilité, sachant que je tiens à dire que je suis tout nouveau sur la série. C'est le premier Devil May Cry que je prends en main. Donc c'est un jeu que j'ai toujours vu jouer et que j'ai jamais pris moi-même en main. Donc c'est la première fois que je joue à Devil May Cry. Et c'est vrai que j'ai eu cette dichotomie entre la manière dont il se prend en main et qui est infiniment complexe. C'est-à-dire que je sais que Kevin va parler de profondeur, et il a certainement raison, mais moi je vais surtout te parler de complexité. Il y a beaucoup trop de choses dans le gameplay de ce Devil May Cry, trop vite. Absolument, je trouve. C'est-à-dire que
mais
déjà...
T'as les boutons, t'as les gâchettes.
Non. C'est le premier jeu et c'est la première fois que ça m'arrive où j'ai dû changer toutes les touches sans exception. J'ai changé toutes les touches, j'ai dû refaire toute la configuration.
Ouh, il était pas content là.
C'est la première fois que ça me réussit.
C'est pour ça que t'as trouvé ça compliqué, c'est que t'as reconfiguré ça n'importe comment.
Non. C'est justement au bout de plusieurs heures de jeu, j'ai ça y est, je prends enfin un peu de plaisir parce que j'ai enfin reconfiguré les touches telles que je l'ai pris. Alors, je me dis certainement.
Enfin, il a pas. Le schéma n'a pas bougé. Enfin, moi, quand le tu prends ta manette, c'est le coup.
Voilà.
PlayStation ou Xbox. Oui.
Vous êtes habitué à un schéma qui date d'avant, okay, et donc moi, je n'ai pas pu m'y habituer.
Pour
moi,
il fonctionne bien. Enfin, t'as le coup faible, le coup fort.
Non, il n'y a justement qu'un coup, en fait. Il y a un coup par personnage. Enfin, le coup au corps à corps et le coup à distance.
Ouais, bon, il y a
un truc, c'est qu'avec Nero, effectivement, des trois personnages, il y a une touche qui vaut vraiment le coup d'être changée. C'est la touche de tir, justement, parce qu'on te demande de la charger tout le temps. Et sur un bouton de façade, pas pratique, alors que sur la gâchette droite, c'est facile à charger. C'est le truc sur lequel je dirais effectivement.
J'ai écouté ton conseil, je l'ai fait, et en effet, c'est une bonne chose. Mais par exemple, moi, la caméra. Gâchette gauche, quoi, stop. Enfin, dans tous les TPS, viser c'est la gâchette gauche et tirer c'est la gâchette droite. Dans la majorité des jeux d'action à troisième personne, souvent on va dire la ciblage c'est sur mon index gauche où j'appuie et je maintiens appuyé.
Oh, mais t'as résolu ton problème.
J'ai résolu mon problème. J'essaie d'analyser pourquoi j'ai pas pris de plaisir sur ce MC5, alors que tout me semble taillé pour que je prenne du plaisir. Et je me rends compte en fait que j'ai une espèce de. Alors, FOMO, alors j'ai pas vraiment d'équivalent français, mais grosso modo, c'est toujours cette impression de ne pas maîtriser mon personnage, de toujours être à la surface de ce qu'il y a à chercher. Et on nous rajoute, et au moment où j'ai l'impression de commencer à comprendre et me dire il faudrait que je m'entraîne encore un peu, on me rajoute une surcouche en m'expliquant que on me rajoute une barre avec Dante.
Il nous lâche pas en fait. Pendant tout le jeu, il y a des nouvelles pages qui arrivent, et c'est vrai que c'est.
Et c'est vrai que pour moi,
tu es là pour apprendre.
Ce DMC5, je vais pas dire que c'est un mauvais jeu, très clairement pas. Je comprends très bien la volonté qu'il y a derrière ça, mais j'ai le sentiment que c'est une difficulté ou plutôt une profondeur artificielle qui est plutôt sur l'accumulation de couches de gameplay, et ensuite c'est une espèce de schéma mental qu'il faut se construire dans sa tête et qui est une vraie maîtrise.
Je reconnais la performance, je pense que tu réfléchis trop en fait.
Chaque fois je suis en mode je me suis pas servi de
pour moi c'est avant tout une expérience sensorielle. Déjà tu lances le jeu, ça me rappelle le temps où l'arcade était reine. Tu lançais un jeu en arcade, t'en prenais plein la figure, et je trouve que ce jeu il a une classe, que t'aimes ou pas la charte graphique et l'ambiance. Je trouve qu'il a une dégaine de fou, quoi. La musique, l'ambiance, le style des personnages. T'adhères ou pas au style, mais je trouve qu'il envoie, quoi. Il envoie directement, et je trouve que visuellement, il a vraiment un cachet, quoi.
Je peux pas apprécier ces personnages, ils sont insupportables. Petit con et vieux con, là, je les supporte pas. Adam Driver, ils sont cool, mais les deux autres, là, c'est Sonic en plus vieux avec des flingues, j'en peux plus. C'est punchline sur punchline. Non, mais si, c'est ça, c'est trop cool.
Je te trouve un peu injuste dans le sens où la série ne se prend évidemment pas au sérieux et le montre assez elle-même et le fait même pas de manière si lourde que ça.
Il y a des mots, des phrases.
Moi j'ai trouvé qu'il est. Il a un peu le cul ainsi entre jeunes. Il le fait soit pas assez, soit il le fait trop. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ils m'ont énervé. Et V, j'aimais bien, je pense qu'il était plus calme, plus posé. J'aimais bien ce personnage. En plus, il a un bon look.
Et au niveau baston, c'est lui le plus nerveux. Enfin, je trouve que dans la partie
j'adore lui.
C'est un truc de fou à l'écran. C'est un festival à l'écran.
Quand je pouvais jouer V, j'étais très content. C'est vraiment le personnage que je trouve le plus intéressant des deux.
On l'a pas précisé d'ailleurs. Des trois. On l'a pas précisé, mais V, c'est un personnage qui est entièrement nouveau pour cet épisode, contrairement à Nero et Dante, qui sont des personnages qu'on avait connus avant, et qui est un personnage très original pour un Devil May Cry, dans le sens où on dit c'est un personnage qui physiquement est trop faible pour se battre et qui va se battre avec des familiers, trois familiers qui sont d'ailleurs pas du tout anodins, un certain Shadow, un certain Griffon et un certain Nightmare, qui sont en fait des références au premier épisode, c'est les ennemis du premier épisode. Et,
ouais. Oh, je me souvenais plus.
Et en fait, en réalité, ça amène à dire quelque chose, c'est que ce DMC5, c'est un peu un genre d'épisode anniversaire aussi. Il faut pas sous-estimer le fandom de Devil May Cry et les gens qui peuvent être très fans du lore. Alors c'est quelque chose dont personnellement j'ai pas grand chose à faire habituellement, mais il se trouve que je me suis laissé emporter dans le 5 par son histoire, etc. Et par donc toutes ces références. En fait, le Devil May Cry 5 abonde en matière de références à tous les épisodes de la série, y compris le 2, qui est l'épisode détesté de la série par tout le monde, y compris par Hideaki Itsuno, qui est le réalisateur de DMC depuis le 2, auquel il avait été greffé sur le développement à la toute fin. En fait, on lui a dit, on sait même pas qui était avant. Le projet.
Essaye de sauver ce qui peut l'être du 2.
C'est ça. Enfin, ce qui ne peut pas l'être. Je pense que c'est ce genre de bouc émissaire qu'on voit parfois dans le développement de jeux japonais où on dit au dernier moment, bon, bah, c'est toi qui vas prendre les balles.
Allez, bon courage.
C'est ça. Même le 2 est référencé de manière plutôt chouette.
Ouais, il l'assume, quoi.
Et le DMC aussi. Donc, c'est, même s'il y a
C'est intéressant.
Il y a beaucoup de références vraiment directes et qui montrent que c'est. J'aime pas trop ce genre d'expression un petit peu trop, comment dire, j'aime pas dire ça habituellement, c'est un peu un genre de cadeau vraiment aussi fait, tu sens qu'il y a une générosité vraiment dans ce que
jubilé
je... c'est ça.
Et c'est ça. C'est comme Kingdom Hearts en fait,
il y a un peu de ça, mais en beaucoup plus contenu, je trouve, c'est-à-dire que j'entends ce que tu dis, Corentin, aussi, dans le côté un peu... très fouillis, très... Ouais, mais parce que c'est le principe du truc, en fait.
Non, je sais.
Pense qu'il peut te perdre, c'est que dès le début, tu te dis, je veux utiliser tout ce que le jeu me propose. Alors qu'en
fait...
Tu peux... une partie normale, tu peux finir le jeu, d'autant que celui-là n'est pas très dur, tu le finis en appuyant sur deux boutons et c'est fini.
J'entends, mais...
Et le jeu, en fait, et je trouve qu'il y a une élégance très très qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est vraiment caché derrière un côté un peu beauf, un peu c'est des gars qui serrent la mâchoire et avec des meufs à moi
j'en pouvais plus,
c'est ça, ouais, mais c'est
dans Bayonetta ça passe, cet univers un peu très fort,
on se demande toujours est-ce que c'est premier ou second,
c'est un peu la même chose.
Moi je suis jamais certain,
c'est second, mais ça change, je vois forcément, ça n'enlève pas forcément le problème, je veux dire, que ça peut constituer,
je vois bien que c'est le second degré, mais ça n'empêche que ça m'énerve.
Dans tous les cas, derrière ça, il y a une élégance de game design que je trouve assez dingue, y compris dans le 4e épisode qui avait été beaucoup décrié parce que en gros on faisait deux fois la même chose avec deux personnages différents. Là c'est un peu ça avec trois personnages.
En fait on revit des passages
de l'histoire,
c'est
ça. Sauf qu'en termes de game design, de ce que le jeu veut montrer et de la manière que le jeu a de te dire, ok, il faut que tu apprennes, il faut que tu mérites tout ce que tu vas faire dans le jeu, il va falloir que tu le mérites. Il y a vraiment une élégance de construction de niveau, de personnage et d'univers aussi que je trouve vraiment 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 impressionnante. Et en fait on voit que vous avez parlé un peu des deux types de Devil May Cry. Il y a le Devil May Cry de base qui est ce que tu disais, ce qu'on voit en 2001, ce type qui donne un coup d'épée, c'est vraiment le jeu vidéo post Matrix, quoi. Ouais. Matrix est sorti il y a pas si longtemps, on est là pour le style, on va
faire
la baston,
poseur, en fait.
Ça exactement, le truc de poseur par excellence. Et il faut absolument que n'importe quel Devil May Cry soit appréciable par une personne qui arrive directement, au même titre qu'un Bayonetta, d'ailleurs, un peu dans le même exercice, que n'importe qui puisse faire des trucs impressionnants et sympas à voir. Mais en fait, l'essence maintenant des Devil May Cry, c'est quelque chose de vraiment impitoyable. Hideaki Itsuno, c'est quelqu'un qui vient du jeu de baston, qui vient notamment des Darksiders et tout ça, qui sont parmi les jeux de baston les plus fouillés et les plus rugueux
technique,
à prendre en main, les plus techniques, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Quand je parle de profondeur de jeu, c'est vraiment... Il faut imaginer un gouffre sans fond. Le 4, il est encore creusé aujourd'hui, Devil May Cry 4.
Ah, je veux bien croire.
C'est pour ça que je veux dire, c'est ça que le jeu propose en réalité. Le jeu, il est impitoyable parce qu'il va te dire, je te propose quelque chose d'hallucinant, mais il va falloir le mériter.
Il n'est pas cassant non plus.
Il n'est pas cassant non plus.
Il reste, comme tu disais, on peut le finir quasiment avec deux touches.
Il reste
accueillant,
jeux,
je trouve.
Il n'est pas rebutant.
Il n'y a pas une porte.
C'est
à toi aussi d'évoluer.
Manifestement, ça peut être rebutant quand même.
Non, mais
je pense que c'est qu'il faut vraiment se dire. Ça met une espèce de. On est obligé d'être humble face à un Devil May Cry quand on arrive parce qu'on ne pourra pas maîtriser.
Bien sûr.
On ne pourra pas maîtriser ce que le jeu. jeu nous propose. Quoi.
J'ai eu ce sentiment-là, mais après, il faut reconnaître au jeu qu'il est très accessible. Il a un mode facile qui est facile. Ouais. Il a un mode, d'ailleurs, on peut retirer les combos. Alors, je trouve que ça retire tout l'intérêt du jeu, donc je ne l'ai pas du tout activé.
Les combos automatiques.
Ouais, les combos automatiques, absolument. Enfin, on ne les retire pas, mais on les enclenche plus nous-mêmes. C'est le jeu qui nous fait à notre place. Je trouve ça dommage, donc je ne l'ai évidemment pas activé.
Ouais, mais tu vois, c'est quelque chose qui montre aussi que le jeu veut être accessible.
Absolument,
quoi.
Absolument. Mais en fait, je trouve que c'est dans sa structure même que le jeu se complexifie. C'est vrai que tuto sur tuto sur tuto, je trouve qu'il n'y a pas de tuto organique, c'est que des tutos vraiment, on te balance des infobulles ou alors il faut aller dans. Il y a tout, hein, tout est un. Il y a pas mal de choses écrites en tout cas qui t'expliquent plein de choses. Mais c'est vrai que tu m'avais prévenu, attention, Dante, tu verras, il est complexe. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que je suis arrivé sur Dante, j'ai pris peut-être plus de plaisir sur Dante que sur Nero, alors qu'il est techniquement plus simple à utiliser. Mais comme il est beaucoup plus libre et qu'on peut faire un peu plus ce qu'on veut, j'ai eu moins de scrupules bizarrement avec Dante à utiliser que deux armes, notamment les motos qui sont très cool à utiliser. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce côté un peu organique que le jeu vidéo permet. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a d'autres jeux qui le permettent. Alors moi, j'ai essayé au maximum de mettre Bayonetta sur la table à chaque fois. Mais peut-être plus prendre. Parce que c'est pas le même exercice et tu as tout à fait raison.
Oui, mais c'est vrai que Bayonetta est le plus proche de Devil May Cry quand il s'agit de comparer des jeux du genre.
Après c'est pas le même style. Bayonetta, le but c'est vraiment de pas se faire toucher, c'est tous dans la de virevolter, les coups ont moins d'impact, c'est vraiment plus fly like a butterfly, sting like a bee, et plus que faire des combos. Mais alors il y a deux jeux que j'aimerais mettre sur la table, deux de Platinum en l'occurrence, donc Metal Gear Rising Revengeance, où moi il y a ce moment où en fait j'utilisais pas du tout la garde dans ce jeu-là, où il faut mettre un coup en avant, un coup léger pour parer, ce qui est très technique, ce qui est pas forcément évident à comprendre, mais là le jeu te met un boss et si tu n'as pas compris ce coup là tu ne passes pas le boss, tout simplement. Et après ce boss là mais moi le jeu j'ai vraiment pris un pied monstre après ça, parce qu'on m'avait appris de manière organique à utiliser une technique un peu compliquée et qui était pourtant essentielle au jeu. Et le deuxième exemple organique de ce qu'essaie de faire Devil May Cry, ce qui est à sa manière mais peut-être de manière un petit peu trop, on va dire un petit peu trop artificielle à mon sens, c'est l'aspect tout style, avoir du style, faire des jolis combos, voilà. Dans Mad World, aussi de Platinum, c'était le premier jeu Platinum, il y avait cet aspect-là style, alors plus dans l'entertainment, c'est-à-dire qu'on était dans une espèce de télé-réalité, le but c'était de faire les coups les plus gores, machin, et c'était plus dans utiliser son environnement, connaître bien le niveau pour aller mettre les ennemis dans la bonne machine industrielle pour faire le maximum de sang, tout ça. Et ça, je trouvais ça cool parce qu'au-delà du score, et je m'en foutais complètement du score, il y avait un peu un spectacle un peu marrant à voir la manière dont t'allais tuer tes ennemis.
Mais là, je pense que t'as une musique d'Evil May Cry quand tu joues. Alors déjà, il y a un habillage sonore qui est excellent. La musique réagit selon quand tu finis un combat, etc. T'as des vrais effets sonores.
J'ai un bémol, il y a une musique par personnage de combat, c'est vraiment peu.
C'est pas ça, c'est que t'as une musique de tempo, t'as un rythme, c'est un jeu de rythme aussi. Hein. Tu vois, quand tu te bats en arène, t'as une arène qui se ferme, paf, tu te retrouves.
Bah, tes
finalement,
combos,
c'est un jeu de tempo.
Tes combos, là, avec tu parlais de la gâchette tout à l'heure, à chaque fois que vous mettez un coup, il faut appuyer avec la gâchette, donc finalement, c'est un petit jeu de rythme.
Encore une fois, moi, je trouve que c'est vraiment une expérience totale entre le son, l'image, le rythme. Il y a vraiment quelque chose de très particulier, je trouve, dans la partie. Il y a un effet, et en tout cas, ça envoie à l'écran, moi je trouve que c'est vraiment ce qui ressort, c'est que, et tu prends plaisir à jouer parce que du coup c'est très démonstratif dans les coups, dans l'ambiance, etc. Et du coup il y a quelque chose d'assez jouissif, hein, je trouve de passer les niveaux.
Il y a un tweet qui va te plaire, enfin que j'avais lu, c'est genre Devil May Cry, c'est comme retrouver une vieille cassette, c'est comme si c'est comme si Capcom avait retrouvé une cassette des années 90, qu'ils avaient décidé d'en faire un remaster maintenant, et c'est un peu l'idée en termes d'ambiance et de ton quoi. Et c'est vrai qu'il y a ça, mais bon moi ça tend un peu
moi,
plus à m'énerver aujourd'hui.
Ce qui a l'air de me fasciner, on va vite s'arrêter parce qu'il nous reste un jeu quand même. C'est assez rare, je trouve, des jeux comme ça qui arrivent à être totalement accessibles. Alors, parce que moi, je joue un peu en newbie absolu, hein, même si j'ai touché aux autres. Mais je n'ai pas l'impression qu'on me prenne trop par la main.
Non, je confirme, oui.
je fais des choses qui m'amusent. J'ai pas l'impression d'être un monstre technique non plus, hein, parce que je peux jouer sur les trois touches, on va dire, coup d'épée, flingue, et puis le bras mécanique de Nero, ou les différentes attaques de V, c'est ça
V, oui. Voilà.
J'ai l'impression de faire ma chorégraphie un peu simple parce que je suis pas un bon joueur, mais je m'éclate et le jeu ne me prend pas pour un débile. Ouais. Et j'ai l'impression, à t'écouter en tout cas, qu'il y a cette profondeur en plus qui limite m'étonne, parce que je suis là, ah ouais, le jeu est accessible pour moi et en plus il est hyper profond pour ceux qui veulent.
Ce que tu perçois quand t'as la note de.
J'ai l'impression que cette combinaison comme ça, accessibilité, profondeur, est assez rare en termes de maîtrise à ce point-là.
Je suis complètement d'accord avec ça. Et si je peux rajouter un truc rapide, hein, c'est juste quelque chose que j'adore dans les DMC, dans les Devil May Cry, c'est qu'il y a une espèce d'unicité entre ce que le jeu vend c'est-à-dire le style de ces personnages que tu vois dans les cinématiques où ils virevolent dans tous les sens. Encore une fois, reprendre ton exemple de à réduit à son plus simple appareil, c'est le coup d'épée vers le haut et après on fait des trucs stylés avec l'ennemi en l'air. Ça, c'est ce que le jeu vend. Et cette profondeur dont on parle, dont je parle là, j'insiste dessus, en fait, ça amène quelque chose. C'est qu'en fait, on peut... le prix, enfin le gain que tu as quand tu t'investis à fond dans un jeu comme ça, c'est que tu finis par faire dans le jeu exactement ce que tu vois dans les cinématiques. C'est-à-dire que tu as un meilleur score, mais tu as surtout un jeu dont le rythme, dont la musique dont tu parlais tout à l'heure devient de plus en plus folle. C'est-à-dire que tu vois une chorégraphie à l'écran qui est dingue. Et en fait, ça met le joueur ou la joueuse vraiment au centre de son intérêt. Le jeu. Devil May Cry n'existe absolument pas, ça paraît idiot à dire, mais n'existe jamais sans ses joueurs ou ses joueuses, dans le sens où c'est le joueur ou la joueuse qui donne, qui habille le jeu et qui en fait un meilleur jeu au fur et à mesure que le joueur ou la joueuse progresse. Ouais, et je trouve ça, c'est la plus pure tradition japonaise de l'arcade, et je trouve ça en fait merveilleux. Il y a trop peu de jeux aujourd'hui, je trouve, qui arrivent à faire encore ça, et c'est d'autant plus appréciable quand, comme tu le dis, c'est des jeux qui savent rester accessibles aussi à la base. Certes, moins accessible que d'autres, mais en fait, il faut voir. C'est un tunnel, il faut voir la porte d'entrée et où ça nous amène le jeu. Ça amène à des confins tellement dingues, potentiellement, que la porte d'entrée ne peut pas être.
Après, ces confins vont concerner peut-être 0,5% des joueurs.
Bien sûr, et je veux dire, moi-même, je dis tout ça, mais il faut littéralement, je vous invite à regarder sur YouTube. Il y a un certain. Quelqu'un qui s'appelle Don Gulli, qui est peut-être le joueur le plus impressionnant sur Devil May Cry, notamment le 4. C'est surhumain, c'est littéralement surhumain. Je pense que c'est un des seuls à pouvoir faire ça dans le jeu, mais c'est possible, le jeu permet de faire ça. Et ne serait-ce que savoir que c'est possible, moi ça me rassure.
Il fait quoi ? Il est...
C'est des techniques très avancées, je peux pas rentrer là-dedans, ces trucs de vraiment de jump cancel. Alors c'est des noms en anglais très compliqués qui impliquent de tordre les mécaniques du jeu.
Ça ressemble à du jeu de combat, là, ce que tu racontes.
Mais littéralement, encore une fois, Hideaki Itsuno, le réalisateur, ne vient pas de nulle part. Bien sûr. Vrai, ouais.
On va passer rapidement, parce que là... explose tout. Rapidement, mais on va en parler quand même. DMC5 sur PC, Xbox One, PS4. PS4. Ouais,
version à 60€ et à 70€.
Et c'est trop bien. Je résume.
Oui, résume. En tout cas, oui, je trouve. Ouais.
C'est bon. Un jeu, là, on est sur le modèle Switch PC de l'indé. Hein, c'est le nouveau modèle de l'indé, Switch PC. Et là, on en parle. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Je ne sais plus si on l'avait déjà évoqué ou si on en a déjà parlé hors émission.
Je t'en parle depuis longtemps.
Oui, c'est ça. C'est Baba Is You. Compliqué va peut-être être de résumer le principe.
Inexplicable.
C'est inexplicable.
Baba Is You, c'est un jeu dans lequel il faut gagner.
Alors, voilà, merci, au revoir.
C'est très compliqué parce que pour gagner, en fait, il faut déclencher une condition de victoire. Mais le problème, c'est que Baba, qui est un petit chien qu'on incarne, en fait, il a les règles dans son monde. C'est-à-dire que c'est des blocs. Ouais. En fait, c'est un monde en vue du dessus et il y a des blocs qui ont des mots dessus et ces mots créent les règles du jeu. Donc ça va être par exemple les murs vous arrêtent. Ou alors d'ailleurs Baba Is You. D'ailleurs, s'il n'y a pas Baba Is You, on ne joue pas puisque on est personne, mais des fois on peut être Flower Is You et on joue une fleur, ou alors on peut être Wall Is You et on est un morceau de mur qui se déplace tout seul.
On est tous les murs.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, s'il y a plusieurs babas, on est tous les babas. Hein.
Oui, voilà,
c'est Baba Is You. Et donc, le but, ça va être de déclencher une condition de victoire. Alors, comment on déclenche une condition de victoire ? Il y a toujours un bloc win. Il y a toujours un bloc win. Donc, si vous faites par exemple Flag Is Win et Baba Is You et que vous déplacez Baba sur le drapeau, vous allez gagner, tout simplement.
C'est la base. On précise, parce qu'il faut penser à le préciser, c'est un jeu en anglais et qui est difficilement
c'est impossible à traduire. Voilà. C'est d'ailleurs un Suédois, j'ai peur, au secours, un Scandinave qui a fait le jeu. Il s'appelle Mpuli Hoy. Le plus fort, c'est qu'il a fait ça sur Multimedia Fusion 2, qui n'est pas du tout un outil très puissant pour faire des jeux vidéo, pas très souple. Et le mec a réussi à faire un jeu entre guillemets méta, qui tord les règles et tout ça. Petite performance là quand même, hein. Donc bravo, c'est très impressionnant. Voilà, parenthèse fermée. Donc le but du jeu, donc, c'est de gagner, comme je l'ai dit, sachant que les niveaux vont de plus en plus chercher à casser vos attentes par rapport à ce type de jeu-là. Donc le premier niveau, évidemment, c'est il y a écrit Baba is you, flag is win, on va dessus, très bien. Puis le deuxième niveau, c'est Baba is you, flag is win et Wall is stop. Et donc le mur nous sépare du drapeau, donc on va casser la phrase Wall is stop pour traverser le mur et aller sur le drapeau flag is win.
Et tu casses la phrase en fait en déplaçant littéralement. Exactement. C'est ça les blocs.
Ouais. Tu casses la phrase parce que chaque bloc en fait, on les pousse en fait littéralement. Ça fait que certaines règles sont dans les coins, donc on peut pas les changer.
D'accord. Ouais.
Parce que on a déjà tous eu ces puzzles dans les RPG ou des trucs comme ça où
il faut les aligner.
On peut pas tirer
fait,
quoi.
Hein. Il faut que les blocs se touchent pour que ça.
Alors il faut qu'ils soient alignés de gauche à droite ou de haut en bas. C'est une lecture classique. C'est-à-dire, si jamais vous alignez une règle de droite à gauche ou de bas en haut, ça ne fonctionne pas.
Ça peut vous tuer.
Si tu casses la phrase, Baba is you, alors que tu es en train de fabriquer une phrase avec.
Tu peux pas du tout y toucher.
Faut pas toucher à Baba is you, mais
tu peux changer
Baba, ou si tu as trouvé un moyen de déplacer plusieurs blocs à la fois, tu peux déplacer toute la phrase en même temps. Ce qui fait que, en fait,
faut que le you est un attribut absolument.
Il faut que le you est un attribut et que l'attribut soit quelque part sur le plateau de jeu. Sinon, tu peux pas jouer. Parce que si tu dis flag is you et qu'il n'y a pas de flag sur le.
Ah, c'est possible, ça arrive, ça.
C'est d'accord. Tout à fait possible.
C'est fascinant, hein, ce jeu avec les mots, parce que les mots, on a tout fait pour s'en débarrasser dans le jeu vidéo. Dans le jeu d'aventure textuelle, on a tout fait pour aller vers justement l'aventure graphique. Retirer le mot, parce que le mot était aussi un goulot d'étranglement. Et là, c'est marrant parce qu'on remet, on re-sacralise le mot à l'écran.
Et d'ailleurs,
ça, c'est beau, je trouve.
D'ailleurs, tu dis ça peut arriver même à tel point que tu as des moments où tu arrives, flag is win, il n'y a pas de flag. Comment on fait? Et en fait, il faut faire genre, je sais pas, il y a une étoile quelque part et tu fais star is flag, l'étoile se transforme en flag et du coup, après, tu peux faire flag is win.
D'accord.
Donc, c'est vraiment des règles comme ça où il faut vraiment. Ce qu'on dit, réfléchir en dehors du cadre, out of the box, comme on dit, pour trouver des solutions à des problèmes qui paraissent insolubles de prime abord. Voilà. Et par exemple, des fois, ça va être, vous allez avoir votre drapeau qui est encastré dans un mur, et en fait, vous allez devenir le mur pour aller toucher le drapeau avec le mur.
Et à côté, complètement métaphysique.
Au-delà du métaphysique, il y a un côté genre, mais en fait, gagner, ça veut dire quoi? Et en fait, comme tu choisis les règles, comme tu dois construire toi-même les règles pour gagner, c'est complètement fou et c'est fait que tu arrives à des solutions complètement hallucinantes.
C'est pas un petit langage de programmation.
C'est totalement logique de code.
Et c'est là où c'est beau parce qu'au bout d'un moment, donc à chaque monde, évidemment, on vous rajoute des règles, on vous rajoute des types de blocs. Là, par exemple, j'en suis à des mondes. J'ai pas du tout fini le jeu. Le jeu est d'une difficulté hallucinante au bout d'un moment. Mais on rajoute des blocs à base de groupes. Donc c'est-à-dire machin is group et après group is par exemple dead defeat, donc c'est à dire que ça va me tuer si je touche, donc tout ce qui va être considéré comme groupe va me tuer, c'est à dire qu'avec un attribut on peut l'attribuer à d'autres trucs. On a aussi des blocs, donc on a le bloc is qui est le bloc de base, mais après on a des blocs end,
j'allais te demander
machin
ça,
truc end autre chose,
sachant que le end on peut le faire déjà avant avec les deux dimensions, c'est à dire qu'en fait peut faire baba is you en horizontal et baba is autre chose en vertical.
Avec un seul is vous pouvez faire deux alignements. Après vous allez avoir des end, vous allez avoir des has, ça veut dire que si vous détruisez un bloc à l'intérieur il y aura un autre truc, donc par exemple chest has flag, si vous arrivez à détruire votre
coffre. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est assez du langage objet, c'est de la programmation objet. Et moi c'est incroyable, évidemment, rien que le principe, rien qu'à t'entendre,
c'est un concept hallucinant.
Cette entrée là est incroyable. Moi je suis fasciné. Après il faut savoir qu'au bout d'une vingtaine de niveaux qu'on va qualifier un peu de tutoriaux, qui sont pas faciles, les 20 premiers niveaux,
j'ai trouvé accessible encore,
mais c'est accessible
parce que par rapport à ce qui attend après, c'est
le truc, c'est qu'on arrive à des moments, à des niveaux où on ne sait pas.
Il n'y a pas une aide ou quelque chose.
On sent qu'il y a un principe linguistico-logique qui nous échappe, une construction logique qui nous échappe, où on ne voit pas la solution. On est désespéré.
C'est pas lié à la langue.
À un moment, on est face à.
Ça m'est arrivé une seule fois où un bloc, j'ai pas compris ce que ça voulait dire et j'ai vraiment dû expérimenter très longtemps pour comprendre.
Est-ce qu'un anglais aurait plus de facilité, simplement, si ce sont des constructions de phrases?
C'est de le langage du jeu. La logique du jeu qui commence à devenir assez insurmontable si on n'a pas le déclic. Il y a certains niveaux où on a le déclic, mais quand on n'a pas le déclic, c'est très dur
d'avoir
forcer
le déclic,
son cerveau à penser de la manière qu'il faut pour résoudre le truc. Et on se retrouve vraiment face à des impasses complètement insolubles du fait que le nombre d'éléments à l'écran est très limité. On sait que notre action possible à cet endroit-là, ça va être de pousser une pierre. On ne peut rien faire d'autre, sauf qu'on ne voit pas comment pousser cette pierre va résoudre le problème.
Tu sais que dans un puzzle, moins t'as d'éléments et plus t'as de chances de trouver la solution en général.
Oui.
Et le problème de ce jeu-là, c'est justement pas ces puzzles où il y a peu d'éléments, parce qu'au final, tu vas finir par comprendre. Attends, tu vas réfléchir deux secondes et tu vas dire attends, j'ai que ces éléments-là, donc forcément, ça va pas être cet élément-là parce que je peux pas le bouger, sinon je meurs. Tu vois, enfin, par principe d'élimination, tu vas finir par y arriver. Le vrai problème de Baba Is You, c'est l'inverse. C'est les niveaux où il y a trop d'éléments.
Oui.
Et ça arrive vraiment où tu appuies sur Start et tu as le résumé de toutes les règles actives à un moment donné. Et il y a un moment donné, tu as vraiment deux listes. Quoi. Et tu fais deux listes de règles et tout. Alors évidemment, tu as des règles qui sont rangées dans des coins, tu peux pas les toucher. C'est genre voilà les règles pour ce niveau, débrouille-toi avec. Et après, tu as les règles que tu peux bouger. Mais il y a vraiment des moments, c'est prise de tête. Et c'est vraiment l'un des problèmes de ce jeu, c'est qu'il n'y a vraiment aucun système soit d'indice, soit d'aide. Alors qu'il y a, qui pourtant, dans un jeu moderne, on attend un peu quand même qu'il y ait un système.
Surtout avec des niveaux de difficulté pareil.
Moi, je te jure, il y a des niveaux où je me suis dit, soit je vais sur YouTube, soit j'arrête.
Moi, je ne pouvais pas, parce que j'avais le jeu en avance, donc j'étais obligé d'aller dur de le faire. Alors, aujourd'hui, je suis content, je vais pouvoir finir le jeu, parce qu'a priori, là, je ne pense pas que j'ai mes chances de finir le jeu, il est vraiment très difficile. Il y a, en fait, là, je crois qu'il y a un niveau un peu choral où il y a toutes les règles d'un coup.
Oh.
Triste de tête. Et bon, je trouve ça un peu dommage, mais alors ça, voilà, maintenant, on est en 2019, on peut aller sur YouTube si jamais vous êtes bloqué. Ça va quand même toucher un peu votre ego.
Et c'est mieux d'avoir une aide interne au jeu qui va pas tout te spoiler.
Je trouve
c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de pensé.
Alors après, le jeu est quand même pensé de manière intelligente, c'est-à-dire qu'on arrive dans des mondes à chaque fois qui introduit une nouvelle règle c'est très classique ça. Et en fait, on va dire que pour finir un monde, il suffit de finir moins, mais peut-être un tiers des niveaux proposés. Vous n'avez pas besoin de vraiment finir la majorité des niveaux.
Donc
le jeu est assez, on va dire, souple à ce niveau-là. Et en fait, le jeu est assez intelligent pour vous laisser suffisamment de niveaux ouverts pour que si ça marche pas sur un niveau, vous puissiez aller sur un autre niveau pour tenter votre chance ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a sauvé. Il y a des moments, j'étais sur trois niveaux, il y en a deux, ça passait pas du tout. Le troisième, j'ai un peu poussé, j'ai insisté, et paf, ça m'a débloqué trois autres niveaux. J'ai senti une vraie respiration. Mais c'est vrai que cette difficulté, pour moi, c'est vraiment une difficulté qui me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, Erwan, j'en avais parlé de
Jelly.
Stephen Sausage Roll.
Comment c'était ce Jelly aussi qui était fou furieux là.
Jelly.
Il y avait un truc qui disait Jelly, des blocs comme ça, des gros carrés qu'il fallait bouger. Il y avait genre trois carrés à l'écran, et c'était à base de Jelly, c'était les blocs de gelée qu'on bougeait. Non, ça vous dit
ça
rien,
me dit rien.
Est-ce que c'est un jeu moderne ou pas? Est-ce qu'on aurait pu le faire il y a 15 ans?
Non.
Ou est-ce que c'est un jeu qui vraiment.
Non, c'est un jeu.
C'est un jeu de 2019.
C'est un jeu dans son game design qui est novateur. Personne n'a fait ce qu'il a fait.
Il crée vraiment une proposition nouvelle.
En fait, c'est un jeu qui est très intéressant parce qu'il ne va pas jouer que sur les logiques de code ou d'algorithme, mais aussi sur de spatialisation des blocs. Parce que, en fait.
C'est du code en Sokoban, quoi, un petit peu.
En Sokoban, je ne connais pas Sokoban.
Tu sais, c'est ce vieux jeu que tu avais sur les ordi où tu pousses des caisses, tu dois organiser des caisses pour les ranger dans une pièce. Enfin, c'est vraiment de la spatialisation.
Mais. Du coup, en fait, il y a des moments où tu dis ah, mais si je. Enfin, dans un jeu normal de totalement bac à sable, tu dirais je vais prendre ce bloc, le mettre là et ça va faire ça. Mais il y a des moments où tu ne peux pas parce que le bloc est dans un coin, parce qu'il y a un mur qui va te gêner. Du coup, c'est vraiment deux zones de ton cerveau distinctes que tu vas essayer de faire travailler ensemble et c'est pas toujours évident. Et ça va limiter tes options, ça va en ouvrir d'autres, c'est compliqué.
Est-ce qu'il y a de l'humour? Parce que vu le système, je pense qu'il y a de quoi s'amuser avec
L'humour est dans la résolution de certaines.
Oui, c'est marrant.
Ça te fait marrer.
Oui, c'est un rire un peu crispé, genre j'ai passé le truc. Quoi.
Non, tu vas. Non, c'est plutôt genre, c'est un rire, genre ah bah c'est quoi la solution, machin, puis tu vas faire une solution tellement idiote que genre ça va faire popper des drapeaux partout, des babas partout et tu vas finir par gagner comme ça. Moi, il y a un niveau que j'ai fait fini comme ça en brute force parce que je crée des babas à l'infini pour me noyer à l'infini dans une flaque d'eau pour qu'elle disparaisse, quoi. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça.
Ah oui, il y a un côté un petit peu absurde aussi.
C'est absurde.
Kevin, hein.
Ouais, non, c'est juste que là, tout ça, ça me fait demander. Déjà, ça me fait penser de loin au jeu de Zachtronics. Je sais pas si vous
absolument.
Connaissez.
Absolument.
Oui, c'est ça. 3000, Opus Magnum aussi et Hexapunks. Est-ce qu'il y a ou est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez la certitude qu'il y a plusieurs solutions possibles pour certaines énigmes?
Très souvent.
Ah d'accord, ok.
Bah, très souvent, ouais, okay. Mais tu sens quand même qu'il y a des niveaux où il y a une solution. En fait tu vois qu'il y a une règle, tu vois qu'il y a une règle qui traîne, tu dis mais à quoi elle sert cette règle? Et genre pourquoi il m'a mis ça? Pourquoi Wall is Wall? Wall is Wall, c'est-à-dire que tu peux le transformer en rien d'autre par exemple. Parce qu'en fait tu vas tenter une solution et là les règles vont mettre des petites barres, c'est-à-dire non, il y a une autre règle qui contredit donc tu peux pas le faire. Ouais. Et là tu fais ah oui d'accord, donc là le game designer il y a pensé.
Il oriente quand même sur des trucs.
Sur une solution. Donc ça arrive notamment dans les derniers niveaux où tu as vraiment une solution qu'il faut trouver.
D'accord.
Ce que je peux entendre en termes d'ailleurs de level design pour ce genre de jeu. Mais c'est vrai qu'il y a des moments tu te dis bon j'aurais aimé un peu plus de liberté. Mais dans les premiers niveaux en tout cas ça peut arriver d'avoir beaucoup de solutions pour d'accord. un même problème.
Okay. Baba Is You, donc le Switch PC.
Switch PC absolument.
Et vraiment.
Sur Switch, c'est parfait.
Rien que pour le concept.
Je suis d'accord.
Rien que
et
pour
c'est $15.
Essayez. Bon, c'est un peu cher pour un concept. Non, mais juste pour le concept. Mais non, franchement, ça vaut le coup. Baba Is You.
$15 avec une bonne durée de vie. Donc, non, ça vaut.
Chers amis, cette émission est fort longue, ce qui est toujours très bien, hein, parce qu'elle était très bien, cette émission. J'ai adoré cette émission. Je vous ai dit que j'ai adoré cette émission. elle est formidable, cette émission. Il n'empêche qu'elle touche à sa fin et que la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, c'est maintenant. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin?
Bah, tu parlais du jeu. Enfin, plutôt, Jérémy parlait de Matryoshka tout à l'heure. À ton avis, je parlais de quoi, Erwan?
Russian Dolls.
Ouais, Russian Dolls sur Netflix.
On l'a déjà dit?
Bah, moi, je l'ai pas dit.
Ah, d'accord.
Donc, je l'ai vu. C'est à mon tour maintenant d'en parler. D'ailleurs, je crois pas que tu l'aies dit. On en a parlé tous les deux parce que tu m'avais
mais
dit si, à quel point.
Dit... Ah bon? J'ai dit Russian
Dolls. Ah, peut-être. Non, j'ai
pas dit que c'était formidable.
Si, t'as sûrement dû le dire. J'ai dû oublier. Mais en tout cas, ça avait donc avec Natasha Lyonne et ses beaux cheveux roux qui prennent tout l'écran. Et franchement, elle crève l'écran, Natasha Lyonne, dans cette série. Elle a un charisme hallucinant, cette nana. C'est incroyable. J'adore ce personnage-là, la voix éraillée qui arrive. Donc, un Russian Dolls, une personne meurt, c'est le principe du jour sans fin. Elle meurt et en fait, à chaque fois, elle se réveille au même endroit, dans la même soirée. Elle essaie de comprendre pourquoi. C'est 8 épisodes, ça dure entre 24 et 30 minutes. C'est plus, faut pas chercher ça. Moi, il faut, pour bien aimer cette série, il faut pas le voir vraiment dans l'aspect pourquoi, quelles sont les raisons diégétiques qui fait qu'elle revit tous les jours la même vie, mais plutôt dans tout l'aspect symbolique de j'ai 35 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie, pourquoi je tourne en rond, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens tournent en rond dans leur vie de manière générale. Et il faut plus se voir dans le côté symbolique. Sur la deuxième partie, d'essayer un petit peu de rentrer dans cet aspect. On va essayer de comprendre pourquoi, de manière métaphysique, ça tourne en boucle. Je trouve ça un peu dommage. Ils auraient.
Non, c'est trop. Moi, franchement, je trouve que ça tient.
Moi, je trouve pas. Mais par contre, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé l'aspect un peu symbolique de on est paumé à 35 ans dans sa vie. Et je recommande à tout le monde, c'est sur Netflix.
Kevin.
Alors moi, on parlait de Devil May Cry tout à l'heure et j'aimerais recommander la chaîne Archipel sur YouTube, notamment l'émission Toco Toco, qui s'est illustrée récemment avec donc ce fameux Hideaki Itsuno dont on parlait, le réalisateur de Devil May Cry depuis le 2 à peu près. Mmh. Et en fait, c'est une chaîne Archipel qui regroupe plusieurs programmes, mais celui que je connais le plus, c'est Toco Toco. C'est une ancienne émission de No Life, créée et tenue de main de maître absolu par Anne Ferrero, qui interviewe des gens du milieu du jeu vidéo, mais pas que. Ça peut être de l'animation au Japon, du manga, de la culture en règle générale. Et déjà, elle arrive à avoir, pour ne parler que du jeu vidéo, à avoir des personnalités assez rares, notamment Yoko Taro, Sueri, exactement, et Suda Goichi, bon, qui est moins rare pour le coup, mais tout de même, des personnes rares et souvent précieuses pour le jeu vidéo japonais, et en sachant donc que ça s'applique aussi à d'autres domaines. Et c'est des interviews, mais c'est pas que des interviews, c'est aussi des gens avec qui tu vas te balader un petit peu.
C'est bien réalisé. Hein,
c'est très bien réalisé. La production value est dingue.
C'est humain,
c'est très humain.
Il y a un côté intimiste, mais qui n'en fait pas trop non plus, où ces personnes vont souvent te montrer dans leur quartier ce qu'ils aiment bien, dans un resto, un bar, ce que tu veux. Et donc je trouve ça d'une valeur vraiment incroyable comme émission. Donc ouais, Archipel, le nom de la chaîne, et Toco Toco, le nom de l'émission phare.
Cool. Très bonne
recommandation. Et comme San Ferro, tout est en français, du coup, sous-titré français.
Oui, bien sûr. Je n'ai pas précisé. Ouais. Oui,
je suis d'accord. Allez voir l'émission sur Sueri, elle est terrible. On le suit dans son bar préféré où il parle justement de l'influence de cet endroit sur ses jeux. Enfin, c'est un bijou, cette émission. Et je l'avais cité en article parce que je l'avais trouvé, mais incroyable.
Patrick.
Alors, moi, je vais parler cinéma. Un film que j'ai vu cette semaine, que j'ai bien aimé, s'appelle Le Mystère Henri Pic, avec Fabrice Lucchini, Camille Cotin. En fait, l'histoire d'un carton, un best-seller, un roman qui a été trouvé dans une bibliothèque en Bretagne, une bibliothèque avec une section collection qui regroupe tous les manuscrits refusés par les maisons d'édition.
Ah, c'est marrant.
Donc, ce livre est trouvé par une éditrice. Ça fait un carton monstrueux. Visiblement, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et ça va piquer Lucchini, qui va enquêter, parce que ce monsieur Henri Pic, bah, on l'a jamais vu écrire. Il est décédé il y a quelques temps, donc on peut pas trop l'interroger. Visiblement, il a pas passé de d'auteur. Donc, il y a un vrai mystère. Et on part sur une enquête. Une enquête. Le film, c'est ça. C'est une enquête sur qui a écrit ce bouquin. Et c'est vraiment très très bien. Enfin, je trouve que voilà, c'est une vraie enquête policière dans le milieu de la littérature. Et j'aime bien le concept en plus de cette salle des manuscrits refusés, regroupés. Je recommande vraiment. Okay. Puis, une enquête avec un whodunit à la fin c'est presque un rôle de Scooby-Doo à la fin. non, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Bonne histoire, super bien joué.
Lucchini doit être bon en plus dans ce genre d'exercice.
Ouais, il est excellent en critique littéraire qui en plus se bloque dessus parce que lui il perd tout à cause du bouquin en question.
Ah, oui.
Je recommande.
Et pour ma part, je recommande parce que je me suis vraiment bien amusé. J'ai passé un bon moment. Umbrella Academy sur Netflix. On est sur du pulp, du truc. C'est un comics à la base, c'est un bon comics. C'est pas du Marvel DC, c'est un autre éditeur.
C'est Dark Horse.
Dark Horse, ouais, c'est ça.
Quand c'est pas Marvel DC, c'est Dark Horse.
Ouais, et pour le coup, voilà une histoire de super-héros déchus, très chelou, dans un univers vraiment propre, alternatif. Très, beaucoup de belles images, beaucoup de belles idées, de bons trucs, un truc étonnamment cohérent aussi. Ça, c'est tellement farfelu qu'on aurait pu dire ça part dans tous les sens, c'est pas assez cohérent. Il y a comment elle s'appelle cette actrice, Ellen Page,
oui,
qui joue du violon, non, voilà. Et c'est non, franchement, ça se regarde très bien.
Rien que pour ça, quoi.
Ouais. C'est-à-dire la punchline, Umbrella Academy, Ellen Page joue du violon.
Je veux bien l'affiche. Bon, bah, on signe.
C'est le pitch.
Voilà, je survends pas parce que c'est pas, il y a plein de défauts, mais c'est très agréable. Merci à Solène Moulin pour la réal, c'était cool. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour parler de jeux vidéo ici même sur Libération.fr, sur Binge.audio et sur les internets. Ciao.